premièrement, nous sommes à l'intérieur d'un colloque, c'est-à-dire que nous allons mettre ensemble des interventions, et ces interventions, j'en ai démarré un enregistrement, ces interventions seront publiées, soit sous forme rédigée, soit sous forme de diaporama, soit les deux. Nous verrons à l'issue ce qui paraîtra le plus pertinent, et de toute façon, tout sera soumis, bien sûr, à l'accord préalable des intervenants. Le but, c'est bien sûr d'avoir une audience plus forte que notre salle de cet après-midi et de prendre date de façon formelle à l'intérieur de quelque chose de publié, de rendu public et concernant vos attentes, concernant vos préoccupations sur ce sujet. Donc il ne s'agit pas d'échanger entre nous, nous sommes tous largement convaincus, je pense si nous sommes ici, de la nécessité d'améliorer à la fois la quantité et la visibilité de l'offre en bio en collectivité. Mais pourquoi cette attente en bio? Alors, M. Courbon l'aurait sans doute développé 100 fois mieux que je vais le faire rapidement. Le bio se définit surtout, principalement, par rapport à un avantage concurrentiel très important qu'il a sur le conventionnel, qui est l'absence de produits chimiques de synthèse à l'intérieur du végétal. Cette absence de pesticides, pour parler clairement, en fait un garant non seulement de l'environnement, dans la mesure où pousser le végétal doit s'accommoder de l'environnement qui lui est donné par l'agriculteur, mais également un garant pour le consommateur, qui est ainsi à l'abri par le filtre de cette agriculture de toute contamination chimique liée à l'ajout de pesticides, à l'ajout de ce qu'on appelle des biocides, ces biocides, c'est-à-dire qui tuent le vivant de façon certaine pour le protéger du végétal d'agression contre des parasites, mais qui peuvent également tuer le vivant, comme va nous exposer très brièvement Mme Grinaldi, le docteur Grinaldi, qui s'est intéressé déjà depuis plus de 10 ans, peut tuer le vivant par accumulation progressive de toxiques, de produits dangereux, qui peuvent avoir des actions très redoutables, non seulement sur l'environnement, mais également sur le premier terme de l'environnement, c'est-à-dire sur nous-mêmes et nos enfants. Donc en fait, dans l'enjeu du bio, il y a l'expression, on parle beaucoup de citoyenneté, de solidarité, de tout un tas de concepts qui apparaissent et éclosent d'autant plus vite qu'apparaissent et éclosent les élections et les campagnes électorales. Et en fait, on est à l'intérieur d'un phénomène lourd. Ce phénomène lourd est marqué, et Mme Grimaldi nous le représentera tout à l'heure, est marqué par le fait que nous souffrons de plus en plus de méfaits pour la santé liés à des pratiques massives, maintenant anciennes, d'utilisation de produits chimiques dans notre environnement, pas seulement alimentaire d'ailleurs, dans notre environnement en général. Nous pouvons, si nous savons que l'altération de notre santé et l'altération est liée à une altération de notre environnement, mettre en œuvre ce que la Constitution nous autorise depuis 2005, mettre en œuvre le fameux principe de précaution. Le fameux principe de précaution qui est tombé en désuétude au fur et à mesure que s'actualisait l'Organisation mondiale du commerce. Mais c'est un principe que le président de la République, Jacques Chirac, inscrit dans notre Constitution, et à ce titre-là, nous devons, nous, en tant que citoyens, qui avons le privilège et le bénéfice de vivre sous cette Constitution, nous devons nous informer, et quand notre information est suffisamment faite pour dire que nous sommes en situation de danger, non seulement pour notre environnement, mais pour nous-mêmes et nos enfants, alerter qui de droit, alerter l'homme politique, mais pas seulement l'homme politique, alerter le juge, de façon à ce que celui-ci fasse son travail et fasse cesser la situation dangereuse. Donc je vais passer la parole à Mme Grimaldi, le docteur Grimaldi qui est gynécologue et qui va nous exposer ceci concernant sa pratique depuis quelques années. C'est sur ce truc-là.
Et alors je vous remercie, puis moi je me réjouis de voir un public de jeunes, parce que vous le verrez, c'est important de s'investir dès le plus jeune âge, et en particulier pour les jeunes femmes, les jeunes couples qui ont envisagé d'avoir des enfants, parce que mon but aujourd'hui, je vous remercie, et de montrer comment ces polluants chimiques environnementaux sont fortement suspectés dans la santé humaine d'interférer avec des mécanismes fondamentaux que sont les modes de reproduction, notre expression de gènes et également le problème de la cancérogénèse. Donc ça fait une dizaine d'années qu'en tant que médecin, je m'investis dans cet intérêt d'éviter au maximum dans notre alimentation les produits chimiques qui sont partout dans la chaîne alimentaire. C'est moi qui commande la DIA, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Alors voilà ce livre qui est un livre provocateur, qui est en fait la traduction d'un livre américain, d'une magnifique scientifique américaine qui était Theo Kolborn. Ce livre s'appelle « Our Stolen Future », vous pourriez le trouver. Sa traduction, c'est « L'homme en voie de disparition ». Et en fait, sur le plan scientifique, cette Theo Kolborn a montré comment la population animale a été la première atteinte. Dans les années 60, on a eu des centaines et des centaines de publications montrant que les alligators en Floride, les panthères dans les réserves de Floride, les poissons étaient atteints de certaines maladies, en particulier des maladies thyroïdiennes, des goitres, et également des troubles de la reproduction, c'est-à-dire qu'on s'apercevait que les alligators étaient féminisés, que les cormorans étaient féminisés. Et l'alerte a été la première au niveau du monde animal. Et actuellement, je voudrais insister là-dessus, lorsqu'on essaye de reproduire les effets des polluants chimiques environnementaux sur l'animal, on arrive à obtenir de façon certaine toutes les pathologies que nous observons en augmentation dans notre population humaine. Chez l'homme, ces preuves toxicologiques directes sont beaucoup plus difficiles à mettre en évidence. Nous avons cependant de plus en plus d'études et on a la chance à Nice d'avoir une équipe INSERM de recherche qui a fait des dosages de pesticides au sang du cordon des nouveau-nés de la ville de Nice et de la ville de Grasse. C'est une étude qui fait partie d'une étude européenne et qui a montré que tous les nouveau-nés ont déjà au niveau de leur sang du cordon une quinzaine de pesticides parce qu'il n'y en avait que 15 qui étaient dosés, ce sont des dosages qui coûtent très très cher, et on a pu corréler positivement le risque d'avoir une cryptorchidie, c'est-à-dire une anomalie des testicules chez ces petits garçons, d'autant plus importante qu'il y avait plus de pesticides. Donc ça a été prouvé dans la ville de Nice. C'est une étude qui fait référence, qui est une étude qui a été publiée dans des revues américaines. Et moi, je suis très heureuse, c'est le professeur Fénichel. Donc, vous voyez, on commence à avoir maintenant des études qui montrent avec certitude cette action toxique, délétère, sur nos différents organes. Alors, comment se fait la contamination? Là, nous avons l'exemple du cormoran, mais c'est exactement la même chose pour nous. C'est-à-dire qu'au départ, on pensait que c'était des fortes doses qui pouvaient nous intoxiquer. Or, comme pour le cormoran, là, c'est un goéland argenté, c'est un exemple dans les grands lacs, les grands lacs du nord des États-Unis. La contamination va se faire par la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que là, vous voyez que ça commence par le plancton animal, qui est absorbé par les petites crevettes, qui va être dans la chaîne alimentaire, mangé par des poissons de plus en plus gros, et arrivé. Donc là, vous avez le goéland, mais vous pouvez imaginer l'ours polaire, vous pouvez imaginer le dauphin, et vous imaginez également l'homme. C'est-à-dire que là, le goéland, il va concentrer 25 millions de fois le polluant chimique qui se trouve dans ses eaux de ruissellement, par accumulation, donc, des pesticides, des engrais, également des polluants industriels de l'environnement qui se retrouvent tous par les eaux de ruissellement dans la nature sous leur forme active et métabolique. Je ne vais pas insister sur ces polluants de notre vie quotidienne, mais ils sont partout. Ils sont dans la chaîne alimentaire du fait des pesticides et des herbicides. Et comme nous avons la chance ici d'avoir un représentant de notre mairie, que je remercie, vous êtes très honoré, j'insisterai de façon très importante sur la pollution des à la fois domestiques, donc des jardins, mais également des lieux publics. Et vous savez que ce sont les Canadiens qui, il y a une dizaine d'années, qui se sont fortement investis parce qu'ils se sont aperçus que les lieux publics que l'on veut très jolis, avec des fleurs, mais également sans herbes, sans mauvaises herbes, sont énormément arrosés d'herbicides, de pesticides. Moi, j'étais effarée quand j'emmenais mes enfants au jardin public de voir des employés municipaux casqués, bottés, qui tuaient les fourmis, et ensuite mes enfants qui allaient jouer dans la prairie. Donc, je sais que de plus en plus de municipalités s'investissent maintenant dans la lutte biologique. Je citerai la ville de Rennes, la ville de Paris, mais également d'autres villes en France. Et je sais que Nice a le projet. C'est pour ça qu'a le projet d'utiliser, enfin, de supprimer, parce que c'est possible, de supprimer tout désherbant et tout pesticide dans les lieux publics, parce que les enfants sont des cibles très particulièrement exposées. Les polluants industriels, je voudrais insister sur les bisphénols. parce que je ne pourrais pas tout dire. J'ai parlé dimanche en une demi-heure. Il faut que je vous dise en 7 minutes ce que j'ai dit dimanche en une demi-heure. Le bisphénol est actuellement très sur la place publique et politique puisqu'il fait l'objet de discussions. Le bisphénol, ce sont ces fameux agents assouplissants du plastique que l'on trouve dans beaucoup d'objets de la vie quotidienne, dans des jouets d'enfants, mais également dans les biberons. Et vous savez que, et également dans, bien sûr, les bouteilles en plastique et toutes les canettes métalliques qui ont à l'intérieur un revêtement plastique. Ces bisphénols et les phtalates également, qui font partie de la même famille, sont des imposteurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils interfèrent avec nos glandes endocrines. Et comme ce sont les bébés, la plupart, qui utilisent les biberons, il y a une imprégnation dès le plus jeune âge de ces toxiques environnementaux. Donc surtout, ne jamais chauffer un biberon, ne jamais exposer une bouteille à la chaleur, parce que c'est surtout à l'exposition par la chaleur que ces phtalates et ces biberons et ces bisphénols sont libérés. Les pathologies humaines qui sont les mêmes que celles qu'on observe dans la nature, vous les savez, vous les connaissez. Chez l'homme, c'est la baisse de la fécondité qui a été largement prouvée, l'augmentation du cancer du testicule qui a triplé, enfin qui est plus de pourcents depuis 10 ans, le cancer de la prostate aussi, messieurs, qui a triplé dans les 10 dernières années. Chez la femme, c'est le cancer du sein qui est en augmentation. Alors, il ne faut pas faire l'amalgame en disant « les pesticides donnent le cancer du sein ». Vous le verrez, le mode d'action est beaucoup plus complexe. Mais de plus en plus, nous avons de plus en plus d'études qui montrent que certains polluants chimiques environnementaux, chez certaines femmes qui ont une prédisposition génétique, peuvent être à l'origine, un facteur du moins, de cancer du sein, comme ils peuvent être un facteur des cancers du testicule ou de cancer de prostate. Les pathologies thyroïdiennes également, parce que ces produits interfèrent avec les récepteurs de la thyroïde. Troubles cognitifs chez l'enfant, lymphome, enfin, je ne vais pas détailler, mais sachez que tous ces travaux, à chacune de ces pathologies, est associé des travaux de scientifiques internationaux, parce que maintenant les études, c'est par centaines qu'on les compte, qui prouvent que telle toxique ou telle association de toxiques, parce que les toxiques agissent la plus souvent en synergie, c'est rarement un toxique qui est responsable d'une pathologie, c'est le cocktail, on va dire, chimique dans lequel nous baignons dès la vie intra-utérine qui peut nous exposer à telle ou telle pathologie. Voilà comment je suis désolée parce que bleu sur bleu, avec en plus de la lumière, on ne voit pas bien, mais c'est pour vous montrer le mode d'action. Ces produits, on les appelle essentiellement des imposteurs endocriniens parce qu'ils vont interférer avec les récepteurs cellulaires et également interférer avec la fabrication des protéines. Ils sont donc reprotoxiques parce que, en se fixant sur les récepteurs, ils vont augmenter l'action des androgènes ou avoir au contraire une action anti-androgénique. Vous savez qu'à Céveso, où il y a eu en 1976 une énorme contamination par la dioxine, pendant 20 ans, on a eu beaucoup plus de filles qui sont nées que de garçons parce qu'il y a eu justement un problème d'interférence très précoce avec ces récepteurs. Donc il y a un problème de reprotoxicité, une action sur les gènes et une action également cancérigène. L'action, donc je vous ai dit, voilà ici, c'est une extrapolation. On suspecte fortement que l'action se passe dès la vie intra-utérine parce que c'est nous les femmes qui, par voie transplacentaire, imprégnons déjà les embryons de ces produits toxiques. Cet effet va induire des pathologies chez l'enfant, enfin, on suspecte cette chaîne, et c'est en fonction de notre équipement génétique personnel, parce qu'on a en fait chacun des capacités enzymatiques de détoxifier ces produits chimiques, mais nous ne sommes pas tous également équipés. C'est-à-dire certains d'entre nous vont éliminer ces produits toxiques, d'autres vont les accumuler, et ceci associé à une mauvaise alimentation et à une exposition encore plus importante à des produits industriels, cela va générer donc les pathologies que je vous ai montrées, pathologie de la thyroïde, pathologie de cancer, de troubles de la reproduction. C'est pourquoi, et je terminerai là-dessus, j'avais il y a 10 ans déjà, donc vous voyez que les idées, elles mettent du temps à progresser, mais elles progressent, j'avais fait circuler à Nice cette lettre ouverte pour la promotion de l'alimentation biologique dans les crèches et les cantines scolaires, une indispensable prévention sanitaire, qui était diffusée à Nice en mai 2000 et qui a permis la distribution de 150 000 repas. J'apprends aujourd'hui avec plaisir qu'il y a maintenant plus de 250 000 repas biologiques qui sont distribués dans les cantines scolaires à Nice. Donc vous voyez que les idées, elles mettent du temps, mais elles progressent. Ça, c'était ce qu'on avait pu obtenir. En septembre 2005, on avait un arrêt et ensuite il y a eu une reprise de cette distribution de repas bio qui sont donc une nécessité, je dirais, au maximum, en priorité pour les enfants et les futures mères. je dirais qu'à l'âge adulte, les jeux sont faits à, on va dire, 70%. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger bio, mais c'est essentiellement chez le petit enfant et les femmes qui sont en âge de procréer que cet effort pour éviter l'intoxication chimique environnementale, en particulier alimentaire, parce que vous savez que les produits bio sont à 94%. Les pesticides sont indétectables, donc on a une certitude à 94%. C'est l'étude qui est parue en 2000 sur les produits bio français, 15 000 échantillons. Donc cet effort d'alimentation biologique doit être vraiment porté sur les enfants et les futures mères. Et bien sûr, il y a le bio, mais il y a également la façon de s'alimenter avec une sobriété, une équité et une responsabilité. Voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition après pour discuter plus longuement.
Merci, Claudine Mergy, pour votre intervention. Donc maintenant, nous passons tout de suite à Mme Rouvérol, qui va donc, nous préciser...
Bonjour à tous. Attendez, je lance mon PowerPoint. C'est à peu près ça. Donc bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Donc je suis Caroline Rouvérol, je travaille au CRIT agroalimentaire, au CRIT, pardon, qui est le centre régional d'innovation et de transfert de technologie. Donc nous sommes situés à Avignon et notre rôle est d'aider les entreprises dans leurs projets techniques. Donc je les accompagne dans la thématique nutrition santé. Et je suis accompagnée aujourd'hui de mon directeur, qui est aussi conseiller en tout ce qui est transformation des produits biologiques. Donc on m'a demandé aujourd'hui de vous parler des bénéfices santé des produits provenant de l'agriculture biologique. Donc c'est ce que je vais m'attacher à faire dans ma présentation, qui sera forcément rapide, comme tout le monde. Mais je reste à votre disposition, ainsi que mon directeur Cyril Bertrand, pour des questions complémentaires. Donc le contexte, je pense que vous le connaissez tous, qui est de porter, pour l'objectif de l'État, de porter à 20% la part des produits provenant de l'agriculture biologique dans les restaurations collectives. Donc une croissance qui est attendue du marché des produits biologiques d'ici 2012, en raison de fortes préoccupations à la fois sanitaires, mais aussi nutritionnelles, on le verra à tort ou à raison, puisqu'il y a certaines choses qu'on dit, on verra tout ça, mais aussi des préoccupations environnementales et éthiques. Donc les projections du marché à 2012 sont impressionnantes. Pour vous donner une idée, sur 2008, on est à plus de 25% de croissance du marché bio, et ça risque d'aller dans ce sens-là. Des obstacles majeurs, cependant, à ce développement, que sont les problèmes d'approvisionnement, qui poussent parfois à des importations, donc d'où la discussion, la difficulté à faire à la fois du bio et du local, qui pose des problématiques au niveau du développement durable, hein, puisque le bio, on arrive à prendre du moins local, ce qui est contraire au développement durable. Et l'autre problématique, l'autre obstacle, c'est le coût, puisque je ne vous apprends rien, hein, c'est bien connu, enfin en tout cas ce qui est connu, c'est que le bio coûte plus cher. Et là, je vous pose une question qui restera en suspens pendant tout le reste de ma présentation. C'est, est-ce que notre santé a un prix? On la garde en tête. Pour le contexte également, puisque l'objectif de ma présentation est aussi de faire un lien, de par ma fonction, avec le programme national nutrition santé, qui est un programme qui a été mis en place par l'État en 2001, qui vise à améliorer la santé de la population française en jouant sur l'un de ses déterminants majeurs, aujourd'hui avérés, notre alimentation. Donc aujourd'hui, on est dans le deuxième volet du PNNS, puisqu'il a été lancé en 2001 sur son premier volet. Il y a différents repères, objectifs nutritionnels qui ont été largement communiqués, puisque l'objectif de ce premier volet, c'était de vous sensibiliser, vous consommateurs, de nous éduquer. Donc il y avait le fameux « consommer », augmenter votre consommation de fruits et légumes, pour le plus connu, les 5 fruits et légumes par jour. Aujourd'hui, on est sur le deuxième volet, qui doit se terminer dans l'année 2010, et qui a axe vraiment ses objectifs sur l'amélioration de l'offre alimentaire. Donc là, celui qu'on cible majoritairement, c'est plus le consommateur, mais c'est plutôt l'acteur de celui qui propose des produits, l'industriel, la restauration collective. Voilà, c'est vraiment jouer, amener ces acteurs de notre alimentation à améliorer la qualité de leur offre. Alors, le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'était sur la définition de notre santé, qui est souvent ramenée à des choses, à quelque chose de plus trop restrictif, qui est l'absence de maladie. Et finalement, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça, comme le dit la définition de l'Organisation mondiale de la santé de 1946. En fait, la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et je voudrais aussi faire une distinction, notamment pour le reste de ma présentation, entre ce qu'on appelle les bénéfices nutritionnels, souvent dans les études, pour comparer les produits bio des produits dits conventionnels. On va s'attacher à démontrer, on parle de bénéfices nutritionnels, ça va être des différences de teneur jugées significatives dans la composition, si vous voulez, en nutriments. Protéines, glucides, lipides, voilà, les nutriments. Et ce sont, donc en général, ce sont les bénéfices nutritionnels qu'on va mesurer. Les bénéfices santé, en fait, on va imaginer, ça inclut les bénéfices nutritionnels, mais c'est pas seulement ça. Ça va être tout bénéfice, une différence entre produits bio et ou conventionnels, jugée significative et qui va avoir un lien, un impact sur votre santé. Donc ça peut être à la fois une augmentation de nutriments favorables, mais ça peut être aussi une diminution en contaminants néfastes à votre santé. Alors, pour ce qui est des bénéfices nutritionnels, donc différence de teneur en nutriments entre les produits conventionnels et les produits biologiques, aujourd'hui, la communauté scientifique est d'accord sur le fait qu'il manque des données montrant l'intérêt nutritionnel, globalement, des produits biologiques. Et c'est Denis Léron qui le dit lui-même. Denis Léron, c'est un scientifique qui travaille à l'INRA, dans une équipe à Marseille. Excusez-moi, je suis un peu malade, alors du coup, j'ai un peu mal. Et donc, il est d'accord pour dire qu'il manque des données à ce jour sur beaucoup, globalement. Denis Léron a été président du groupe de travail qui a donné le rapport AFSA 2003, qui a quand même montré certaines différences, et notamment montré qu'il existe un meilleur profil nutritionnel pour certains nutriments en faveur des produits biologiques. Donc, ces bénéfices nutritionnels, c'est notamment des teneurs supérieures en matière sèche dans les végétaux. Toujours pour les végétaux, des teneurs légèrement plus élevées, par contre, là, effectivement, il faut le dire, en fer et en magnésium. Par contre, là où les teneurs sont nettement plus élevées, et donc c'est un avantage pour le bio, ce sont pour les teneurs en antioxydants. Donc effectivement, ça part d'un constat très simple, que la plante, plus on l'aide à se défendre, moins elle va développer ses propres défenses. C'est-à-dire on la cocoon, comme on fait en agriculture conventionnelle, alors que l'agriculture biologique, en l'aidant moins, ça va développer les défenses naturelles de la plante, ce qui fait qu'on aura des teneurs en antioxydants naturellement plus élevées dans les produits de l'agriculture biologique. Et ça, les différences sont les plus importantes, en fait. On a également des teneurs qui sont différentes en termes de lipides dans les produits animaux, avec moins de lipides dans les produits animaux bio, et une proportion plus intéressante pour le bio dans la mesure où on a plus d'acides gras polyinsaturés dans les produits bio. Donc, ce qui est intéressant en termes d'équilibre des différentes graisses. Excusez-moi. Alors ça, c'était avant cet été, où on a une étude qui a fait vraiment un gros débat médiatique, on a beaucoup parlé. C'est l'étude qui a été donc demandée par la FSA, qui est l'équivalent de notre AFSA, l'Agence d'évaluation scientifique française, donc là c'est britannique, la FSA, qui a demandé à une équipe de Londres de faire une revue de la littérature des 50 dernières années, et donc qui a rendu ses conclusions, faisant grand bruit, puisque ces résultats indiquaient que globalement il n'y avait pas de différence nutritionnelle entre les produits bio et conventionnels, à quelques détails près mineurs, hein, c'est ce qu'ils indiquaient, et qu'il n'y avait aucune preuve d'un bénéfice santé lié à la consommation de produits bio, étant donné la quantité limitée de données disponibles. Alors, je voudrais vous amener à regarder un petit peu derrière ce qui a été largement médiatisé, c'est ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Donc bon, on apprend que finalement, il n'y a rien qui démontre l'intérêt des produits biologiques. Je voudrais justement vous dire comment s'est passée cette revue de la littérature. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris à peu près 50 000 études réalisées entre 1958 et 2008, et qu'ils ont réalisé une sélection des données qu'ils ont jugées, eux, pertinentes, sur des critères a priori très très stricts, c'est-à-dire qu'ils se sont permis d'enlever les publications qui n'étaient pas en anglais, qui n'avaient pas de résumé en anglais. Ça, c'est un des critères, hein, mais enfin, je pourrais vous en citer d'autres, qui sont vraiment sur lesquels on peut se demander en fait si ça permet de faire une évaluation objective. Autre biais, ils ont utilisé une méthode d'analyse statistique un peu, on va dire, qui peut prêter à des interrogations. Pour un nutriment donné, ils ont pris des valeurs sur différentes espèces de fruits et légumes. Ils ont fait des moyennes, en fait. Si vous voulez, ce qui permet, avec une telle méthode, on peut difficilement mettre en évidence des différences significatives. Puisqu'on a mélangé des choses qui ne sont pas forcément comparables. Et puis, dernière chose, c'est que ce qu'on a fortement médiatisé, c'est qu'une version très très simplifiée du rapport, qui fait plus de 300 pages, que je peux vous transmettre si vous voulez, puisque je l'ai amené avec moi, hein, mais donc je me suis à votre disposition pour la transmettre. Donc voilà. Donc finalement, à partir de 50 000 études, ils en ont retenu 55. Alors je me demande comment on peut prétendre évaluer la qualité nutritionnelle des produits bio à partir de 55 études. Sachant qu'ils ont mis de côté, comme je vous disais, il y avait pas mal de choses sur lesquelles ils ont statué, un peu arbitrairement. Alors, à la lecture du rapport complet et attentif de ce rapport intégral de la FSA, on se rend compte que pour les produits bio-végétaux, en fait, ont été observés de teneur supérieure en antioxydants, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui avait été vu déjà dans l'étude de l'AFSA en 2003, en magnésium, en zinc et en matière sèche, et des teneurs moindres en azote. Pour les produits animaux, des teneurs supérieures en acides gras polyinsaturés. Donc, effectivement, on retrouve l'ensemble des résultats qui avaient été déjà observés, confirmant ainsi les premiers résultats de 2003 et de notre AFSA. Je voudrais... donc là, on était sur les différences nutritionnelles, évidemment. Pour les différences santé plus larges, il est clair que, ça c'est aujourd'hui prouvé, que le bio permet de diminuer de moitié les teneurs en nitrate des produits, notamment des légumes. Donc ce qui est intéressant au regard des recommandations du PNNS, qui demande d'augmenter notre consommation de fruits et légumes, et au regard aussi de nos apports actuels en nitrate et des doses journalières admissibles. Donc les produits bio sont intéressants, les légumes bio sont intéressants dans cette optique-là, surtout ceux dont on va consommer la peau. Pardon. Les produits bio sont aussi intéressants de par l'absence de résidus de pesticides, on l'a déjà évoqué tout à l'heure dans la première présentation. Un des reproches qu'on faisait au bio, c'était de dire oui, mais d'accord, mais d'un autre côté, dans les produits bio, on observait un développement de mycotoxines, qui sont des toxines produites par les champignons. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que il n'y a aucune preuve formelle démontrant un risque accru de ces mycotoxines dans les produits biologiques. Autre élément intéressant dans les produits bio est la restriction d'additifs et d'auxiliaires technologiques. Donc, qui sont introduits s'ils sont jugés indispensables et dans un nombre limité de denrées encore. Pour info, il y en a 36 additifs autorisés contre 300 en conventionnel. Au-delà de ça, il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, mais qui sont des pratiques qu'on va retrouver chez les transformateurs, chez les agriculteurs de produits biologiques, qui sont notamment l'utilisation d'ingrédients ou de matières premières moins raffinées, meilleures pour votre santé, les farines, les huiles d'olive qui sont souvent vierges, de première pression à froid, et tout ça ayant un impact favorable sur notre santé. Voilà, je ne vais pas m'étendre un peu plus, je pense que je suis allée au bout de mon temps de parole. Juste, oui, je vais finir par donner nos coordonnées si jamais.
Elles sont publiées, quoi.
Voilà. Ça, oui. Et puis, nous sommes à votre disposition pour d'éventuelles questions.
Merci. Bien, maintenant, c'est Madame Hart de Mairie Millau, mais première adjointe à Mairie Millau qui va vous présenter. Pardon, excusez-moi.
Ce que la mairie de Millau, dans l'Aveyron, a mis en place depuis 2 années et compte mettre en place dans les années qui viennent pour effectivement améliorer la qualité alimentaire qui est actuellement servie par la cuisine centrale, c'est-à-dire les cuisines la cuisine qui est gérée par la mairie. Vous savez que dans les communes, soit la mairie a pris l'option de gérer la cuisine qui sert les repas aux enfants, soit elle peut faire appel à un fournisseur extérieur. Donc à Millau, il se trouve que la mairie gère la cuisine, ce qui est effectivement du coup de sa compétence d'en améliorer la qualité. Alors vous voyez ici certains logos, notamment... le petit escargot, puisque c'est le logo de Slow Food, un mouvement avec lequel la commune est partenaire, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et puis nous avons ce logo, l'assiette en basket, qui est significatif d'une action que nous menons, qui touche donc l'assiette, c'est-à-dire la composition alimentaire des menus servis par la cuisine centrale, mais aussi qui touche la façon de se bouger. Et la commune a également pour compétence de gérer les sports, et nous avons donc des actions centrées sur l'activité physique, en complémentarité avec les actions centrées sur l'alimentation. Et puis le logo PNNS, puisque la ville a signé la charte PNNS l'année dernière. Donc Millau, la vie par le bon goût, je vous invite à vous rendre à Millau et vous avez trouvé probablement sur vos sièges une petite pub concernant le festival dont je vous reparlerai en fin d'exposé que nous organisons cet été au mois de juillet. Je vais passer rapidement sur les objectifs parce que les objectifs, je pense que toute commune devrait les avoir et peut-être les a déjà, à savoir donc éduquer les jeunes au bien manger, au goût. 20% de bio dans les cantines scolaires, le Grenelle de l'environnement nous y conduit, la prévention de l'obésité, un équilibre de vie, l'assiette en basket, parce qu'encore faut-il justement travailler autant sur ce qu'on absorbe que sur ce qu'on consomme et consomme, et un territoire bio, l'Aveyron en Midi-Pyrénées. Je pense qu'effectivement, il appartient aux élus de considérer que manger bio, ça fait partie d'une action territoriale qui touche tant l'agriculture que la santé de ses habitants. Alors pour ce faire, adhésion de la ville à la charte PNNS, une opération donc centrée sur la cuisine centrale qu'on appelle manger autrement à la cantine, des ateliers d'éveil et goût pour les enfants, des écoles qui notamment vont visiter une AMAP, un jardin bio, donc maraîchage bio. Jardin d'école avec le jardinier Millau, on a beaucoup misé sur l'éducation des enfants et sur leur compréhension de à quoi ça sert de manger autrement. Donc avec la complicité des serres de la ville, nous avons mis en place des bacs qui permettent aux enfants de cultiver les légumes de saison, et parce que ce sont des bacs et non pas des parcelles de terre, les jardiniers des serres municipales récupèrent les bacs pendant les vacances, s'en occupent lorsque les enfants sont en congé, et lorsque les enfants reviennent, ils peuvent continuer la culture de leurs légumes. Nous avons réalisé un film avec eux concernant justement un film d'animation à partir de pâtes à modeler concernant l'alimentation. Et vous savez qu'à Millau, il y a un viaduc. Et ceux qui voudront visiter le viaduc pourront visualiser ce film puisqu'il est passé en boucle dans le site d'interprétation du viaduc. Atelier cuisine avec le chef de la cuisine centrale et une opération qui est actuellement soutenue par des crédits européens. Le fruit à la récré, je pense que beaucoup de communes ont utilisé cette méthode pour sensibiliser les enfants au fait de consommer des fruits. Alors, ce qui n'existe pas avant notre arrivée, mais qui existait dans beaucoup d'autres communes, donc je ne le prends pas comme quelque chose d'extraordinaire, c'est la mise en place d'une commission menu. Mais cette commission menu a cet intérêt que nous y avons associé tant le personnel de cuisine que le personnel qui sert les enfants dans les restaurants scolaires, c'est-à-dire les ASEM, que des enseignants, que des représentants des parents d'élèves, bien entendu également les élus, un médecin nutritionniste, et nous travaillons sur les menus qui vont être servis pour les 5 prochaines semaines. Et nous essayons de voir, compte tenu de la saisonnalité et bien entendu compte tenu des normes, comment améliorer la qualité des menus. Alors, avant de commencer cette opération l'assiette en basket, nous avons travaillé avec la médecine scolaire et les médecins scolaires et l'Institut de formation en soins infirmiers de Millau pour élaborer un questionnaire de telle sorte de mesurer le comportement alimentaire des enfants. Donc, il s'agissait d'évaluer la façon dont les enfants considèrent qu'ils se comportent vis-à-vis de l'alimentation, tant à l'école que chez eux, pour des classes de CM1, CM2 et 6e. Et nous allons suivre ces enfants par le biais de la médecine scolaire pendant 3 années avec le même questionnaire pour voir si effectivement les actions éducatives que nous engageons auprès d'eux modifient leur comportement. Bien entendu, une communication éducative. Puisque nous avons un site internet par lequel les parents peuvent inscrire les enfants à la cantine, et ce site qu'on est en train d'ailleurs encore d'améliorer cette année, mais déjà il permet aux parents de connaître la composition alimentaire la composition nutritionnelle des menus, quelle est l'origine des produits servis, et nous allons cette année essayer de leur donner, à leur demande d'ailleurs, de leur donner des conseils pour que le repas du soir soit en équilibre, soit complémentaire de celui servi le midi. Donc par ce site, il y a une grande communication qui est faite, et je dois dire qu'un certain nombre de parents ont découvert que cette année, on avait servi beaucoup plus de bio que l'année précédente, et donc sont aussi sensibilisés à la question du bio par cette méthode. Alors, je voudrais souligner que la question du bio pour nous est un objectif idéal, vers lequel nous tendons, bien entendu, mais que l'intérêt pour nous est la qualité alimentaire, et notamment d'avoir une alimentation qui respecte les principes de la biodiversité et du développement durable, et donc les circuits courts avec des produits labellisés et le bio, et on s'en va vers une conversion entre certains menus à base de protides animales remplacées par des menus à base de protides végétales. Nous travaillons aussi avec les centres sociaux, nous montons des ateliers cuisine. Je crois que vous êtes tous convaincus que les jeunes générations ont des difficultés à cuisiner bio et nous aidons donc les jeunes parents à voir comment, avec simplement un potimarron ou d'autres ou des lentilles, on peut régaler les enfants pour pas cher et de façon aussi rapide que d'aller faire les courses au supermarché. Donc nous avons des atouts, Midi-Pyrénées, 3e région de bio en France, et l'Aveyron, premier distributeur de bio, producteur de bio en Midi-Pyrénées, avec donc des objectifs territoriaux, encore une fois je crois que c'est le rôle des élus, faciliter l'installation de producteurs bio et créer un partenariat entre les producteurs locaux et les cuisines municipales. Et ça, c'est un gros enjeu qui est vraiment difficile à atteindre. Alors, pour ce faire, nous avons décidé de nous associer avec 5 autres communes en Aveyron, quasiment les principales, et qui gèrent leur cuisine centrale, comme nous le faisons nous-mêmes. L'idée, c'est donc de développer une filière bio pour nos cantines et de faciliter l'approvisionnement de produits de qualité en circuit court. Ça veut dire qu'il faut mobiliser des élus. Par exemple, ma commune avec la commune voisine, qui était à 30 km de là, La commune voisine va ouvrir une couveuse agricole. Alors la couveuse agricole, je vous en dis deux mots, mais l'idée c'est de permettre à des jeunes agriculteurs qui sont formés de pouvoir tester si c'est bien le métier qu'ils souhaitent faire en les accompagnant pendant un an, mettant à leur disposition du terrain et en les tutorant en quelque sorte pour les aider à démarrer. Et ensuite, bien entendu, une fois qu'ils ont décidé de s'installer, il faut qu'une autre commune les accueille. Et c'est ce que nous allons faire en leur offrant la possibilité de trouver des terres et de les aider également pour qu'ils puissent se loger. On sait qu'un couple d'agriculteurs peut vivre avec 2 hectares en bio. Encore faut-il qu'ils trouvent ces 2 hectares et puis qu'ils trouvent un logement. Et ça, c'est notre responsabilité. Également, solidarité commune producteur pour la biodiversité. Donc, l'idée par solitaire, c'est de faire un groupement d'achat en adaptant les programmations de commandes à la saisonnalité de la production. Et ça, c'est un gros problème, c'était une révolution dans la façon de gérer les cuisines, la restauration collective. Jusqu'à présent, on prétendait qu'on pouvait tout manger n'importe quand du moment que c'était pas cher. Je crois qu'il faut revoir complètement notre façon de commander et donc d'adapter les commandes à la possibilité des agriculteurs de nous servir les produits dont nous avons besoin. Bien entendu, également créer des plateformes de distribution et de transformation mutualisées entre les communes. On s'est rendu compte au niveau de Millau que passer en bio, ça coûte pas si cher que ça, contrairement à certaines idées reçues, mais mes collègues de Roubaix vous diront peut-être ou la même chose ou l'inverse, c'est bien d'avoir différents points de vue. En tout cas, chez nous, au bout de 2 ans, on ne peut pas dire qu'on ait explosé le budget à la cuisine. On a dû augmenter à peu près de 4%. Et cette année, je pense qu'on arrivera à être quasiment équilibré. Ce qui coûte cher, c'est la main d'œuvre, parce qu'effectivement, ça coûte beaucoup plus cher de laver des salades que d'ouvrir un sachet et de verser le contenu de la salade déjà épluchée et lavée dans un saladier. Ce qui coûte plus cher, c'est de débiter la viande quand les produits arrivent effectivement non formatés, non débités. Donc c'est la main d'œuvre qui fait que le produit est plus cher. Nous avons un partenaire qui est Slow Food, un mouvement Slow Food dont justement les petits escargots montrent qu'il faut savoir prendre le temps pour cuisiner, prendre le temps pour manger, pour acheter. Et c'est vrai que Millau, à part son viaduc, vous connaissez aussi, j'imagine, l'histoire du démontage du McDo, c'est-à-dire du fast food, par l'équipe de José Bové. Alors, Slow Food, ce mouvement est installé en Midi-Pyrénées et ils ont décidé d'être partenaires avec la ville de Millau. C'est un mouvement international et qui a justement décidé de nommer son mouvement Slow Food en opposition justement au fast food. Nous avons fait avec eux une formation des personnels de cantine. Nous allons faire avec eux une formation des personnels de cuisine. Nous avons organisé des conférences à l'attention des personnels médicaux, paramédicaux, enseignants sur l'éco-gastronomie et pour les parents et les enseignants également. Enfin, les parents également. Et Millau va participer à un réseau qui s'appelle Dream Cantine qui, au niveau européen, permet d'améliorer encore la façon dont on gère la restauration dans les cuisines. Un levier pour l'avenir, la formation. Avec le food, Millau va les accueillir, va accueillir ce mouvement et va accueillir le premier institut de haute qualité alimentaire. HQA, c'est un label qui a été déposé par Slow Food et qui nous oblige en termes d'engagement, tant les restaurateurs que les cuisines, que les communes, à s'engager sur un référentiel, sur une charte pour la haute qualité alimentaire. Millau a été la première ville en France, avec la commune de Bègles, à signer cette charte en décembre 2009. Et l'Institut Slow Food sera donc créé dans la ville. Également, Slow Food est un mouvement qui existe depuis 20 ans, qui concerne environ une centaine de pays, et dont l'origine est italienne. Et il y a déjà une université en Italie, pas loin d'ici, à Bra, côté de Turin, des séances gastronomiques. Et avec l'université Toulouse Le Mirail, nous allons mettre en place à Millau un diplôme universitaire qui devrait voir le jour en octobre 2010. et avec SoFood comme partenaire pour travailler sur la haute qualité alimentaire au niveau de la formation. Et puis, je vous invite au festival du 1er au 4 juillet 2010. Il y sera question de manger autrement avec des sessions de formation et des conférences à l'attention des collectivités, des techniciens et des élus, mais aussi à l'attention des agriculteurs, des professionnels et des non-professionnels. Juste un exemple pour terminer, vous ne pouvez pas le voir de loin, mais il s'agit des chartes élaborées par le mouvement Slow Food qui permettent donc à des communes, à des restaurateurs, à des professionnels, à des, tout à fait des personnes non engagées par ailleurs, de signer une carte, une charte pour s'engager sur la haute qualité alimentaire. Il me semble, juste pour terminer, que si on n'a pas le triptyque agriculture, alimentation et santé, on n'arrive pas à être efficace, et j'espère que vos questions iront également dans ce sens. Nous prouverons que vous aussi, de votre côté, vous faites des efforts pour la haute qualité alimentaire. Merci.
Merci, Mme Marc. Un autre élu va suivre votre intervention, il s'agit de M. Fonero.
Non, c'est Lombardo.
C'est... Mais ça fait rien. Ah, c'est Lombardo, excusez-moi. J'avais
écrit. Je vais.
Je suis un journaliste, ça s'amplifie.
Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui, tout va bien.
Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous parler un petit peu du Rouret, de sa cantine, une fierté, un bonheur. Alors, je vous avoue que je vais découvrir en même temps que vous les documents qui ont été préparés. Alice s'en est occupée ce matin. Alors pourquoi Alice? Elle est la première adjointe au Rouret et elle s'est beaucoup occupée de l'alimentation biologique au sein de notre cantine. Alors je vous disais, cette cantine, c'est une fierté, c'est un bonheur de faire, un bonheur d'agir au service des enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et maintenant depuis 10 ans, eh bien, on revendique d'être la première commune de France exclusivement biologique, enfin un produit biologique servi à la cantine, reconnu EcoCert. Donc je crois qu'autour de cette petite labellisation, autour de cette notoriété, eh bien, le Rouvray a gagné en dimension, puisque j'ai été invité un petit peu partout dans le grand sud-est de la France, à Fourcalquier, à Vauvert, à Avignon, pour parler de cette expérience et essayer de faire comprendre aux élus qu'il y avait matière à se sentir bien moralement, à se sentir bien éthiquement, en faisant et en nourrissant les enfants de façon qualitative. Aujourd'hui, je suis à Nice. J'ai envie de dire merci à la ville de Nice. Merci, c'est Bernard, hein, Bernard Baudin, qui se trouve là et qui est adjoint au maire de Nice et qui travaille sur le sujet, sur l'environnement. Donc, et ça participe totalement de l'environnement que de parler d'alimentation biologique à la cantine. Vas-y, Alice, on va découvrir tout ça en même temps. Pourquoi manger bio? Ben, tout ceci a été dit, protéger l'environnement, préserver notre santé. Je crois que c'est parti de là. Notre volonté, c'était d'abord, au moment où nous avons été élus en 95, c'était de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? On nous fait proposition toujours plus avant de réduire le prix du repas dans l'assiette des enfants. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose qui tourne par an. C'est plutôt le contraire qu'il faut faire. Et c'est comme ça que nous avons commencé à travailler. Et bien sûr, la vache folle, enfin, tous les épisodes qui ont existé autour des inconvénients alimentaires qu'on a connus dans la fin des années 90 nous ont aidés. Donc, tu peux tourner. Donc, nous avons proposé cette initiative au conseil municipal. Alors, au début, c'était un petit peu réticent. Parce que, au sein du conseil municipal, nous avons du bio, pourquoi faire? Après tout, on va marginaliser les enfants. Comment ça va se passer? Il faut sensibiliser tout le monde. Après tout, c'est pas si mal que de manger. Bon, bref. Finalement, à force de conviction, nous avons réussi à obtenir d'abord l'adhésion des élus. Parce qu'il y a toujours quelqu'un dans un coin qui a sa pensée que allez, pour utiliser un mot qui est bien provençal, qu'on est un peu fada quand on commence à parler de qualité, de repas, de santé. Mais il est habité par les faits, celui-là, qu'est-ce qu'il raconte et à quoi ça sert. Bref, on a réussi à avancer dans cette direction. Une fois sensibilisé les conseils municipaux, parce qu'il en a fallu deux, le premier, on a travaillé, et le deuxième, on a validé. Ensuite, il a fallu parler aux parents d'élèves et aux enseignants. Alors, les parents d'élèves, là aussi, la crainte, je parle des années, fin des années 90, la crainte, c'était de dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont nous supprimer les pommes de terre, le pain ne sera plus du pain, le personnel de la cantine, et Alice peut en témoigner, s'inquiéter de savoir si elles allaient voir arriver des carottes normalement constituées, etc., etc. Donc il a fallu sensibiliser tout le monde et rassurer. Et j'avoue que à force de réunions, bien nous sommes arrivés à ce qui semble facile aujourd'hui, puisque c'est rentré dans le conscient et l'inconscient collectif qu'aujourd'hui le bio, eh bien c'est quelque chose qui amène de la valeur nutritive, on vous l'a dit, amène de la valeur environnementale, on vous l'a dit, et on n'aura de cesse que de le répéter. Et je dirais apporte dans la grande chaîne de la vie, eh bien je crois qu'il y a une belle chanson autour de ça, la chaîne de la vie, apporte cette recherche de santé. Donc, cette cantine se fournit essentiellement chez un distributeur local de produits biologiques, et tout à l'heure, je pense qu'il va prendre la parole, il s'agit de M. Jean Fédersoni. Alors, c'était une chance pour le Rouré, qui était situé à proximité, justement, de ce fournisseur, grossiste, d'abord agriculteur, qui a une expérience négative à vous raconter, mais enfin, très vite, pour être, je dirais, moi-même sensibilisé, et pour avoir, avec Alice et d'autres dans les conseils municipaux successifs, une affection particulière pour la planète, et pour les enfants, et pour la santé, eh bien, il nous a été facile de nous orienter vers Jean Fédersoni et de développer cette alimentation biologique. Donc, on passe l'alimentation, l'agriculture, et je pense que Jean Fédersoni nous en parlera beaucoup plus largement. Les années 90, je vous en ai parlé, nos enfants, 2001, l'amont, lancement de l'amont de restauration, tout ceci effectué au travers de sondages, et on s'est quand même rendu compte au travers de ces sondages que les parents étaient prêts à payer plus cher le prix du repas. Et ça nous a étonnés, parce que quand on a lancé ce petit sondage, eh bien on se disait, on va peut-être se faire allumer, mais ça fait rien, il faut quand même essayer, il faut quand même voir ce que ça donne. Eh bien, une seule personne nous a dit, on aimerait que ça coûte moins cher. Donc évidemment, ça c'est souvent pour empêcher, puis il y a toujours le grincheux, bon bref, on va passer. Mais autrement, tout le monde était prêt à mettre un petit peu plus d'argent, ce qui était quand même très important, parce que on aurait pu penser que les gens, les parents, auraient souhaité une stabilisation. Pour autant, et parce qu'il s'agissait d'une véritable démarche politique volontariste, je salue le fils de M. Fédersoni, eh bien, nous nous sommes dit, qu'importe le prix, pourvu que nous atteignions notre objectif. Il revient à la commune du Rouré, dans un acte fort, de dire ce que nous voulons dans l'assiette des enfants, ce sont des produits de qualité, à haute valeur nutritive, etc., etc. Et là, je ne vous parle pas en scientifique, ce n'est pas mon job, je ne connais pas tout ça, le dimensionnement des nutriments, les pourcentages. Je vous parle simplement en tant que, je dirais, personne de bon sens. Voilà. Il était anormal que de tirer les repas toujours vers le bas. Donc la saisonnalité, nous avons organisé des petits déjeuners pédagogiques avec les parents, nous sommes rentrés dans cette démarche de saisonnalité, dans l'utilisation de légumes anciens. Bon, tout ça, ça reste quand même des expériences qui... La mairie, voilà, ça, Alice vous le signale, la mairie prend en charge le surcoût lié à ce mode de restauration, le bio est intégré automatiquement à chaque calcul de budget. Il est sûr qu'à chaque fois que ça augmente, on reste stabilisé pour les parents, et la commune, dans cette démarche politique, eh bien, se dit, c'est à nous, politiquement, de prendre en charge et de demander à la collectivité d'aider, justement, à ce que ces aliments, l'alimentation reste centrale et majeure. Voilà, donc notre expérience, on produit dans... Bon, alors aujourd'hui, on est sollicité, bien entendu, on est sollicité par d'autres communes environ qui aimeraient en faire autant, et je dirais que nous n'avons pas... Alors, nous étions en régie avant de passer en restauration collective, et puis on s'est rendu compte finalement que la restauration collective nous permettait de faire des économies. Et c'est là qu'on s'est dit, ben, après tout, la restauration au travers d'entreprises en délégation de services publics nous permettait de faire des économies. Pourquoi ? Bien, la commune n'est pas une entreprise de restauration, nous ne sommes pas des restaurateurs, nous ne savons pas faire. Et là où il nous fallait 6 personnes, eh bien aujourd'hui nous en faut 4, 4 et demi, puisqu'il y a eu une augmentation de repas. Et aujourd'hui, cette cantine est tellement plébiscitée que les parents d'élèves, s'ils pouvaient faire manger leurs enfants le soir à la cantine, eh bien, ils le feraient. En tous les cas, nous sommes allés directement vers une délégation de services publics. Nous avons déjà passé 3 délégataires de services publics. Et à chaque fois, le niveau des repas a été maintenu, la qualité des repas a été maintenue. Et ça, c'est le résultat d'un cahier des charges puissant que nous avons mis en place, qui est respecté et qui a d'ailleurs servi, je dirais, d'exemple. Nous l'avons, la région nous l'a demandé, qui a servi d'exemple à de nombreuses villes qui nous ont sollicité au travers de ce cahier des charges. Et de cela aussi, on peut être fier puisque nous l'avons élaboré nous-mêmes. Il est maison, mais petit à petit, il s'affine, il se peaufine. En tous les cas, la démarche vers la délégation de services publics ne nous a pas fait peur, parce que ce qui était important pour nous, c'était justement d'arriver à la finalité du repas bio dans l'assiette. Alors, comme nous ne sommes pas, nous n'avons pas la chance de Millau d'avoir des hectares et des hectares de terrain agricole autour de nos villes, dans les Alpes-Maritimes en tous les cas, eh bien, nous, on s'est dit, après tout, si ça vient d'un peu plus loin, c'est pas très grave. L'objectif essentiel, c'est bien ce qu'on met dans l'assiette. Voilà, donc, contrôlé 2 fois par an par Écosserre au minimum. Tous les échelons de la filière sont contrôlés. Nous sommes adossés, comme je le disais tout à l'heure, à un grossiste de qualité qui, lui aussi, a une éthique et qui s'applique en permanence à assurer les bonnes filières pour l'ensemble de notre approvisionnement. Donc le principe des menus, ben, reste le même, hein, je vous le disais tout à l'heure, une viande blanche, viande rouge, poisson, un repas végétarien par semaine. Alors là je rejoins M. Montagna, un repas végétarien pourquoi ? Ben, parce que nous avons voulu faire comprendre aussi que dans l'alimentation, essayez vous êtes levé, je crois que ça commence à être en retard. Donc je vais tout simplement terminer en vous disant que nous avons la joie et le bonheur de vivre que l'instant de vivre la comment dire je veux dire ça de vivre le fait que à chaque fois que nos enfants mangent et mettent un coup de fourchette dans leur assiette, eh bien ils travaillent à leur santé d'abord et à la protection de l'environnement ensuite, dans toute la chaîne protection de l'environnement, du monde agricole, de l'environnement, du monde agricole, des animaux, de la terre, etc., de l'eau et de l'air. Merci de m'avoir écouté. Ah oui, simplement sur le coup, pardon, monsieur Fetter, sur le coup, aujourd'hui, voilà, prix d'un repas avec amortissement, 5,55 €, le prix d'un repas sans amortissement, 4,65 €, par parent, 3,25 €, par commune, 2,30 €. On nous a dit qu'on faisait tout aussi bien que certaines communes qui fournissaient du repas dit conventionnel. Merci cette fois-ci. Merci beaucoup.
Bien, ben, j'ignorais que la commune du Roré n'était pas en cuisine, en restauration directe, mais est passée en concédé, donc nous l'avons appris ensemble. Et maintenant, nous allons avoir les témoignages des représentants de la restauration concédée, en la personne des représentants de la SOGRS et de la SODEXO. Et je crois que donc M. Bacchialoni va commencer. Il est prévu dans le programme que la SOGRS. Madame Écuyer, l'écuyer, Madame l'écuyer. Et j'ai perdu mon truc, moi. C'est bien, monsieur Lafayette Junior. Oui.
Vous êtes passé les diapos?
Bonjour à tous. Moi je me présente Valérie Alexandre. Je suis le commercial de la société SOGRS, aussi connue sous le nom de Azur Restauration, notamment auprès de la ville de Nice et sur la région. Je suis en effet accompagné de Madame Sophie Lécuyer, qui est la directrice de la cuisine centrale de Cannes, qui m'a laissé le soin de vous faire cette présentation. Je la remercie. Alors, on va pas trop voir.
Le disque dessus, on verra par là. Voilà.
Alors bon, cette présentation, nous, ce qu'on voulait rapidement, hein, puisqu'il y a eu des, on va dire, des grands professionnels qui sont allés très loin dans le détail, c'était vous faire part un petit peu de notre expérience et surtout déjà vous expliquer pourquoi notre démarche dans le bio. Donc Sogeres a proposé du bio dans ses menus. Tout d'abord, Madame Grimaldi en a parlé assez longuement tout à l'heure, hein, c'était une réflexion au niveau des fruits et légumes en bio. Et on avait eu l'occasion de regarder avec Monsieur Becloni, donc notre directeur, un reportage sur l'effet des pesticides sur les alligators des Everglades en Floride du Sud, qui nous avait bien marqué. Ensuite, pourquoi le bio, notamment sur au niveau des laitages, pour une qualité organoleptique très nettement supérieure aux autres produits qu'on pouvait trouver en général en restauration collective. Hein, puisqu'il se rapprochait très nettement des modes de production traditionnels. La viande bio, donc c'était pour nous une réponse aux précédentes crises alimentaires. On a parlé tout à l'heure de la vache folle. Hein, on proposait la viande bio, c'était un moyen de rassurer aussi les consommateurs et les collectivités qui ont dû répondre justement aux parents d'élèves et fournir des garanties. Donc le bio, ça a été une garantie au niveau d'une agriculture qui était naturelle et saine. Et enfin, des sources d'informations comme Jean-Michel Le Cerf, hein, un livre qui s'appelle « Manger autrement » que vous avez certainement lu, Monsieur Desbros, Monsieur Jean Montagard, qui a fait un gros travail, qui travaille toujours au niveau du végétarien, alimentation végétarienne, professeur à l'école hôtelière de Nice, avec qui j'ai eu l'occasion de suivre des cours. Notre application dans le bio, je suis désolé, vous n'arrivez pas à lire. Mais je vais vous en parler. Donc Azur Restauration, avec la ligne de produits Beautiful, ça a commencé en 1999 avec la DSP de la ville de Nice, avec un repas bio qui était un 100% bio, qui était servi deux fois par mois aux maternelles des écoles de la ville. Hein, pour rappel, la ville de Nice était à l'époque entre 20 et 22 000 repas par jour. Dès 1999, voilà. En 2001, Azur Restauration a proposé pour l'ensemble de ses clients de la région, ce qui représentait en gros 30 000 couverts jour, du bœuf 100% bio. Ça veut dire que le bœuf qui était servi dans les écoles, sur l'ensemble des écoles, était exclusivement issu de l'agriculture biologique. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'était une réponse à la crise de la vache folle. Azur Restauration n'a jamais été inquiété au cours de cette crise, puisque depuis le démarrage et la création de l'entreprise, nous avions toujours acheté notre viande de bœuf en France. Mais là encore, le bio, c'était un moyen de répondre et de rassurer les consommateurs et notamment les collectivités qui, via le bio, ont pu réintroduire la viande de bœuf dans les menus. Autre chiffre, aujourd'hui, en 2008, Sogeres, en chiffre, c'est 285 tonnes de produits bio achetés par an au niveau national. Et enfin, en gros, 2,8 millions d'achats de produits bio. Voilà. Je vais vous parler maintenant un petit peu concrètement chez nos clients comment ça se traduit aujourd'hui. Donc on a des demandes très variées des collectivités. On a par exemple 90% de produits bio qui sont servis en repas livrés. On a attaqué depuis 3 mois maintenant sur le CNSH de la commune de Aize. Pourquoi 90% seulement? Il nous a fait une demande à 100%. Ce qu'on leur a expliqué, c'est qu'il y a des produits comme le poisson qu'on ne peut pas trouver en bio et certains produits qui sont proposés en restauration collective et qui sont bien appréciés des enfants, comme par exemple les nuggets ou les cordons bleus, que nous, en tant qu'adultes, on n'aime pas trop proposer, mais c'est des demandes aussi de certaines collectivités de pouvoir les laisser occasionnellement dans les menus. Voilà, donc ça, c'est des produits qui sont... On va dire, il n'y a pas vraiment d'arguments pour les servir en bio, parce que c'est un peu de la malbouffe, mais voilà, ça arrive quand même que des communes nous demandent de les servir. D'autres exemples en bio, on a un 50% de produits bio, par exemple sur la commune de Grimaud dans le Var, où on a deux menus 100% bio servis chaque semaine. Ensuite, on a des communes où on sert 25% de produits bio, notamment une à deux composantes bio sur la ville de Cannes, pour 3500 couverts jour. D'autres communes où là, on propose uniquement de la viande bio, donc c'est viande, charcuterie, œufs bio pour tous les repas. Donc là, je citerai la commune de Saint-Janet, Aise, une école privée aussi à Valbonne, l'école Montessori. Et enfin, beaucoup de collectivités, entre 12 et 20% de produits bio, par exemple la commune du Luc dans le Var, ou encore les écoles de Gilette, Saint-Raphaël, du Céram. Alors pourquoi on a cité tous ces exemples, c'est pour vous montrer la grande diversité des cahiers des charges, des collectivités. Et aujourd'hui il y a une demande, c'est le Grenelle de l'environnement demande 20% de produits bio. Concrètement, chez beaucoup de communes, c'est très varié la demande. Et ça a un impact aussi sur nous au niveau de la gestion en cuisine centrale. Pourquoi ? Parce que autant de demandes diverses impliquent pour nous en cuisine centrale des prestations différentes. Donc des coûts de gestion supérieurs qui se répercutent ensuite dans le prix des repas. Pour parler un petit peu aussi du prix, puisque je vous ai parlé donc des difficultés de gestion, aussi pour vous dire qu'au niveau de la gestion des approvisionnements, quand on raisonne, on l'a vu tout à l'heure, nous on sait le faire, il y a d'autres sociétés de restauration qui vont parler aussi sur des très gros volumes. Quand on doit le gérer aussi sur des petites communes, puisque sur, bon, on va dire, le plus petit contrat, c'est du 12 couverts qu'on sert en bio avec les viandes bio, ça monte jusqu'à 2200 couverts pour la ville de Cannes. Il y a une difficulté au niveau des livraisons sur la gestion des franco de port par rapport au menu. Voilà. Donc ça, c'est aussi une difficulté complémentaire, sachant que il n'y a pas d'effet de volume dans le bio comme on pouvait le trouver avant dans la restauration, enfin dans l'agriculture conventionnelle et dans les achats en termes conventionnels. Les effets de volume sur le bio, ils sont nettement inférieurs, d'autant plus si on travaille en filière courte avec des fournisseurs locaux. Voilà, parce que le bio, sauf faire ma part, ça va un peu à l'encontre de l'agriculture intensive. Alors je vais maintenant vous parler donc les engagements de relations d'entreprise, notamment avec les collectivités, puisque c'était un petit peu le sujet. Tout d'abord avec nos clients, donc pour un travail dans le bio, il y a une nécessité quand même d'offrir une grande transparence, puisqu'il y a les communes qui ont besoin de contrôle sur les prestations qui sont servies, dans le cadre d'une DSP ou d'un appel d'offres. Donc c'est tout d'abord respecter strictement les cahiers des charges et fournir les éléments aux collectivités pour pouvoir contrôler le travail de l'entreprise et notamment la fourniture des produits bio qui sont demandés au cahier des charges. Être capable de faire évoluer la prestation, notamment il y a des représentants de la commune de Valbonne ici présents dans la salle où ben justement ils vont introduire dans leur nouveau cahier des charges un peu plus de bio, donc pouvoir les accompagner dans ces démarches, leur donner, faire un retour d'expérience, leur donner des informations pour qu'ils puissent eux ensuite prendre leurs décisions et élaborer leur cahier des charges. Voilà, on l'a dit, partager notre connaissance et le petit savoir-faire et la petite expérience qu'on ne prétend pas tout savoir. Et enfin, avec les distributeurs et associations de producteurs, donc on a le plaisir de travailler aussi avec le GAEC Fédarzoni et la société Naturedis depuis quelques années. Et on est également en contact avec la société, l'association AgriBio 06, M. Markovic, pour justement commencer à renforcer notre travail en filière courte et locale sur les Alpes-Maritimes et aussi le Var et la Provence. Spécifiquement pour la cuisine centrale de Cannes et les clients qui sont servis à partir de la cuisine centrale de Cannes. Un point important, oui, que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que par exemple les communes comme Millau ou Le Rouvray, qui sont des communes en restauration sur place, c'est beaucoup plus facile de pouvoir gérer, travailler du bio, Nous, aujourd'hui, on a pu développer un savoir-faire pour proposer des prestations en repas livré jusqu'à, en gros, 90% bio. Et ça aussi bien pour des prestations scolaires, c'est-à-dire des enfants des classes maternelles, primaires, adultes. Mais aussi, on le propose désormais pour des crèches. Voilà, donc on rejoint un petit peu ce qu'avait expliqué Madame Grimaldi, l'importance de la présence de produits bio dans l'alimentation pour les plus jeunes. Merci pour votre attention.
Alors, on est sur un seul micro, j'espère qu'il sera réparé d'ici là. Monsieur Bayet de la Sodexo, vous voulez bien venir.
Bonjour à tous, donc je me présente Nicolas Bellu, je suis directeur qualité et développement durable de Sodexo France et je suis accompagné avec Monsieur Aurélien Blanchet qui est directeur de la cuisine centrale de Nice. Donc je vais apporter un témoignage complémentaire de celui de Monsieur Alexandre sur notre expérience de l'introduction du bio en restauration collective et en restauration scolaire en particulier. Je ne vais pas revenir très longtemps, ça c'est l'avantage de passer un petit peu plus tard que les autres sur les éléments de contexte, parce que beaucoup de choses ont été dites, notamment sur les aspects santé et impact potentiel pour la santé des consommateurs, sur les attentes des consommateurs en tant qu'acteurs engagés au quotidien, on parle de plus en plus de consommateurs, de locavores, etc. Et puis une attente très forte identifiée chez nos convives de retrouver un lien avec le producteur, un lien avec le terroir, un lien avec les saisons. Je voudrais juste revenir par contre sur le Grenelle de l'environnement. On a beaucoup évoqué l'objectif de 20% de produits bio en restauration collective. Si on le replace un petit peu dans le contexte du Grenelle il y a maintenant bientôt 3 ans, les 20% de bio en restauration collective, ce n'est qu'un moyen. L'objectif initial, c'est bien de développer la bio en France. Et si on creuse un petit peu, pas creuser bien loin, l'objectif du Grenelle, c'est de tripler la surface agricole bio à horizon 2012 et d'atteindre 20% à horizon 2020. Donc, élément de contexte, voilà pour les attentes qui font que les collectivités ont très rapidement, depuis le Grenelle et avec une nette accélération cette dernière année, introduit dans leur cahier des charges l'introduction de produits bio. Alors, parallèlement à ça, ou en face de cela, quelle est la situation au niveau de la production ? Le constat que l'on a fait très rapidement, c'est que nous sommes heurtés à un déficit de produits bio pour répondre aux attentes de nos clients. Certaines collectivités, qui étaient, comme vous, monsieur le maire, un petit peu précurseurs, nous ont demandé depuis de nombreuses années d'introduire des produits bio en restauration dans leurs services de restauration scolaire, ce que nous avons fait. Et quand nous sommes posés pour analyser nos achats bio, on s'est rendu compte qu'une très grande partie des produits que nous utilisions étaient importés. Et c'est notamment vrai pour les fruits et légumes. Ces chiffres sont les chiffres qui ont été publiés par l'agence bio il y a maintenant un peu plus d'un an. Je pense qu'ils seront réactualisés, j'espère qu'ils seront un petit peu à la baisse pour ce qui est des importations. Mais si on regardait nos achats, il y a des produits qui venaient d'Italie, d'Espagne, d'Égypte, du Chili, etc. Ce qui était absolument non satisfaisant sur un plan environnemental, c'était une aberration pour nous, alors que le Grenelle voulait développer la surface agricole bio en France, d'importer des produits de l'autre bout de la planète. L'autre constat que nous avons mené, c'est dès lors qu'on a voulu s'orienter vers la production française, c'est qu'on s'est trouvé face à des filières différemment structurées, très hétérogènes d'une région à une autre, et puis avec une inégalité sur le territoire. On évoque les difficultés de l'agriculture, enfin, le peu de surface agricole en région PACA. D'autres régions sont beaucoup servies et ont pu peut-être engager la démarche plus vite. Par contre, le point très positif, c'est qu'on a toujours trouvé des acteurs très, très motivés pour travailler avec la restauration collective. En ne nous connaissant pas forcément bien, mais nous ne les connaissions pas beaucoup de notre côté non plus. Donc, sur ces 3 dernières années, on a appris à se connaître et à travailler ensemble. Et ça nous a aidé, nous, Sodexo, à arrêter une stratégie et une position sur le sujet, parce que je pense qu'il est de notre devoir et responsabilité d'en avoir une. Ce que l'on souhaite faire, c'est traduire l'engagement de nos clients qui investissent finalement dans le bio, parce que le bio coûte plus cher, alors on peut en amortir les surcoûts en trouvant différents moyens, mais il y a quand même un surcoût. Notre responsabilité, nous, en tant qu'opérateurs, en tant que société de restauration, c'est de faire en sorte que cet engagement de nos clients, ces euros investis, se traduisent en développement de la surface agricole bio en France. Pour ça, il y a trois points qui nous semblent essentiels. Le premier, c'est de réfléchir à la façon dont on introduit du bio en restauration collective. Il y a plusieurs façons de le faire, il y en a deux essentiellement. Soit une introduction événementielle, en faisant un repas par mois, un repas par semaine, ou une animation bio de temps à autre, on va parler d'approche événementielle. Soit en introduisant une approche par ligne de produits, qui consiste à dire à introduire de façon systématique un produit en bio. Par exemple, si on fait le choix dans l'étage, dire que systématiquement les laitages dans le service de restauration seront bio. Si on choisit des fruits et légumes frais, par exemple, dire que nos carottes, nos pommes de terre, nos salades seront systématiquement bio. Pourquoi cette approche? Parce qu'elle permet de donner de la visibilité aux producteurs, de leur donner une vision sur le calendrier de consommation et de production, et puis ça évite les à-coups et le recours à l'importation dès lors qu'on se trouve un petit peu coincé. Deuxième point très important, c'est que au-delà de la visibilité qu'on donne, les producteurs bio aujourd'hui, ceux qui sont déjà en bio, ils n'ont pas besoin de nous, ils n'ont pas besoin de la restauration collective pour écouler leurs produits. À quelques exceptions près, mais globalement, ils trouvent des débouchés en remise directe. Donc pour qu'ils soient enclins à travailler avec nous, il faut qu'on leur donne des garanties. Et ces garanties, elles passent par une nécessaire contractualisation, c'est nous engager vis-à-vis de nous. Et puis le dernier point, puisque si on reboucle avec le Grenelle, l'objectif c'est bien de développer la bio en France. Donc notre responsabilité, c'est aussi de soutenir la conversion, voire d'aller chercher des producteurs qui hésitent et leur donner toutes les garanties pour qu'ils y aillent tout de suite à nos côtés. Alors, sur un plan méthodologique, on a retenu deux axes de travail qui sont tous les deux complémentaires. Une approche locale, c'est-à-dire la sélection de filières locales à proximité du lieu de consommation. Et ce sera essentiellement pour les fruits et légumes frais, parce que le maraîchage et la production la mieux distribuée à l'échelle du territoire. Je vais vous donner deux exemples sur la ville de Brest. Alors, volontairement, je vais prendre des exemples lointains. Sur la ville de Brest, depuis 2006, les petits Brestois ont systématiquement, dans leur service de restauration scolaire, des carottes, des salades, des pommes de terre, du yaourt, du pain bio, local. Et là, nous avons travaillé avec des producteurs locaux. De la même façon, en Pays Nantais, nous venons de signer, ça c'est pour illustrer la conversion, un partenariat avec un GAEC, le GAEC des Sables, pour lui acheter 13 000 batavia par an et 5 tonnes de céleri rave. L'objectif étant d'utiliser et de distribuer ces produits sur l'ensemble de nos restaurants du Pays Nantais. Donc des filières locales, alors ici effectivement, Je me retourne encore une fois vers M. Federzoni avec qui nous travaillons. Nous avons également des filières en Camargue. Enfin, ces exemples-là, on en a de nombreux. Au-delà de cela, parce que l'agriculture sur le territoire français n'est pas homogène et que tous nos clients doivent pouvoir bénéficier de produits bio dans leur service de restauration, on a développé un certain nombre de filières que l'on appelle « nationales » entre guillemets, sur un certain nombre de produits phares. Je vous donne trois exemples. Pour les yaourts, nous avons décidé de travailler avec un producteur qui s'appelle Tribala, à Noyal en Bretagne. Pourquoi on a fait ce choix de produit? Parce que cet opérateur est engagé auprès de ses agriculteurs, ses producteurs laitiers depuis de nombreuses années. De la même façon, on a cherché pour les pâtes, qui sont un des éléments importants de restauration scolaire, un producteur capable de nous fournir des pâtes, toutes sortes de pâtes, avec une garantie sur la provenance du blé. Et nous sommes d'accord avec Alpina Savoie, qui est un petit producteur de pâtes à côté de Chambéry, pour obtenir des pâtes avec un blé dur bio français. C'est 225 tonnes de pâtes que nous allons acheter systématiquement tous les ans, et en faisant cela, on va capter une grande partie de la production de blé dur bio français, plus de 20%. Et puis, un autre exemple, pour les Vendéens, nous avons accompagné un producteur qui était en label rouge, qui hésitait quelques années à se convertir au bio, On a du mal, nous, société de restauration, à trouver du poulet bio en France. Nous sommes allés le voir. Enfin, un partenaire, nous avons une relation avec lui, et il s'est converti, et nous sommes engagés à lui prendre l'ensemble de sa production. Alors, quelles sont les clés de succès? Le premier point, c'est la connaissance réciproque des métiers des autres. Nous ne sommes pas des agriculteurs, chacun son métier, nous ne sommes pas non plus des distributeurs, donc il faut que chacun connaisse le périmètre de ses compétences, reste à sa place en connaissant et en acceptant les contraintes des autres. Chacun doit rester dans son rôle. Ensuite, je pense qu'il faut être capable de s'engager. C'est le point clé. Si on veut donner de la visibilité à la filière sur un peu plus que la durée d'un contrat, on doit être capable de s'engager contractualisé. Et puis enfin, ça c'est un message pour ouvrir un peu le débat, parce qu'on parle beaucoup de restauration collective. Mais je pense que la restauration collective ne peut pas tout régler à elle seule. La restauration collective, pour certains produits, est déstabilisante. Je prendrai l'exemple par exemple du poulet. On consomme beaucoup de cuisses, beaucoup de pilons, peu d'ailes en restauration scolaire. Donc il faut qu'on trouve, avec d'autres acteurs, des débouchés complémentaires, de façon à pouvoir équilibrer les choses et à assurer une réelle pérennité pour les producteurs. Voilà, je crois, monsieur, que j'ai terminé.
Merci.
Merci beaucoup. Eh bien, nous allons maintenant passer à la distribution. Et je vais commencer donc à Grip 206, monsieur Markovic, si vous voulez bien.
Vincent Markovic, je travaille pour l'association Agribio 06, qui est la fédération des producteurs bio du département. Je vais vous présenter assez rapidement l'agriculture biologique en PACA, à savoir qu'il y a un peu plus de 1000 exploitations actuellement en fin 2009, avec une augmentation de 16,5% depuis 2007, qui est assez conséquent au point de vue régional par rapport au niveau national. 51 000 hectares environ de production bio, encore une fois aux alentours de 10% d'augmentation, et 7,5% de SAU, c'est-à-dire bien au-delà de la SAU nationale qui est aux alentours de 2%, ce qui place la PACA en première région en termes de SAU bio. La restauration collective bio en PACA a commencé dans les années 90 avec quelques opérations ponctuelles. Elle a eu une montée en puissance dans les années 2000 et enfin un vrai décollage sous l'impulsion du conseil régional en 2005 avec l'introduction du programme Produire et manger bio en PACA, une opération pilote dans un premier temps dans quelques lycées. Ça s'est maintenant étendu à une soixantaine de lycées de la région. L'opération pilote donc a été initiée en 2005 avec deux objectifs principaux. Tout d'abord, le développement de la baie régionale en créant de nouveaux débouchés pour les structures et les filières et avec l'ambition de maintenir le foncier agricole dans la région. Ensuite, le deuxième objectif est d'améliorer la qualité de l'alimentation en restauration collective, notamment en favorisant l'introduction de produits frais, locaux et bio et en travaillant à l'équilibre alimentaire et le goût des produits frais et cuisinés. Tout cela est couplé avec des animations pédagogiques de la part d'Agribio vers les convives pour les initier au bio et leur expliquer exactement les différences entre le conventionnel et le bio. En ce moment, il y a donc, comme je vous disais, 60 lycées partenaires de cette opération avec 6 lycées dans le département des Alpes-Maritimes. Donc, vous voyez rapidement, je vous l'ai déjà dit, 60 lycées. Vous avez vu l'augmentation du nombre de repas bio depuis 2005, avec une forte croissance à partir de 2007-2008. 30 000 lycéens touchés par ces repas bio 100% bio mensuels, 105 000 repas faits l'an dernier, et 140 agents formés, parce que le programme aussi prévoit aussi la formation des gestionnaires et des cuisiniers à la spécificité du bio, qui a été coordonné par l'association 1 plus bio. Donc ça je passe. Vous pouvez voir la structuration de l'offre locale au niveau de la région avec des grossistes partenaires, Biocoop pour les départements à l'ouest et Naturdis pour les départements dans le Var et les Alpes-Maritimes. L'exemple d'Agribio 06 que je représente aujourd'hui. Agribio 06, comme je vous le disais, c'est la fédération des producteurs bio du département. Un conseil d'administration composé de producteurs bio, 3 salariés, dont moi qui suis chargé de la restauration collective, avec plusieurs missions, la promotion, la sensibilisation, la formation, le développement, l'organisation de formations professionnelles et la veille réglementaire. L'agriculture bio dans les Alpes-Maritimes suit un petit peu celle de la région. 83 exploitations fin 2008, 102 fin 2009, avec une forte augmentation aussi. Le nombre de conversions suit aussi l'augmentation du nombre de producteurs engagés en bio. 3316 hectares en mode de production bio, soit 84% d'augmentation par rapport à 2007. Chiffre qu'il faut vraiment relativiser, puisque sur ces 3300 hectares, 3000 sont consacrés aux prairies et au fourrage. Donc ça nous laisse à peu près 300 hectares, tout compris, maraîchage, viticulture, etc. Ce qui, en fait, n'est pas énorme. Le rôle d'Agribio dans la restauration collective, c'est la définition du projet, le diagnostic d'entrée avec l'association 1 plus bio, la co-organisation des formations, des cuisiniers, des gestionnaires, l'accompagnement des professionnels au niveau de la conception des menus, des quantités et des dates de menus, la coordination de l'approvisionnement, c'est-à-dire local, bio et de saison, avec nos producteurs, la communication auprès des parents d'élèves, des élèves et de la presse, et les actions de sensibilisation et les animations pédagogiques, comme les expositions, les goûters bio et les visites de ferme, qui sont vraiment importantes dans le programme. L'offre locale bio dans le département est assez restreinte. Elle se compose principalement de légumes, quelques fruits, et l'appui de Naturdis pour le reste du menu, à savoir toutes les épiceries et une partie des viandes. L'approvisionnement se fait prioritairement auprès, comme je vous le disais, des producteurs bio, locaux, et des grossistes généralistes et spécialisés pour compléter le menu. Ainsi, on peut dire qu'Agribio assure la mise en musique entre les différents acteurs, les producteurs, les grossistes et les établissements scolaires, afin de proposer des menus bio, locaux et de saison. Ce qui est vraiment très important de saison. La production dans les Alpes-Maritimes, comme je vous le disais, est assez restreinte. Beaucoup de légumes, toutes les productions locales classiques, salades, carottes, pommes de terre, etc. Quelques fruits, petits fruits, fruits à naïo et quelques agrumes. Les laitages de chèvres, de brebis et de vaches essentiellement, surtout chèvres et brebis à vrai dire. Quelques viandes, brebis, agneaux, chèvres, très peu de vaches et de bœufs. Des poissons, le miel à foison, le pain et évidemment l'huile d'olive. Donc je vais vous présenter rapidement les collectivités et établissements engagés en RHD bio. Les communes, donc le Rouvray, qui était une des premières engagées, si ce n'est la première. Roquefort-les-Pins, depuis peu, qui est engagée à 100% bio depuis janvier, je crois, avec Naturdis. Aurigo-sur-Sienne, Mont-Sartoux, Vence, qui par le concours des appels d'offres commence à introduire le bio de plus en plus fréquemment. Carrosse, qui établit des repas 100% bio et des lignes de produits. La Gaude, qui est en train de réfléchir au passage partiel au bio. Nice, à travers sa DSP, Le Broc, Saint-Jadet et Gatière. Au niveau des lycées, il y a 6 lycées partenaires, 3 Antilles, Nice, Val-de-Blore à la Montagne, et Pierre et Marie Curie depuis hier. Et les collèges sans financement, puisque les lycées ont un financement pour introduire le bio, c'est-à-dire la Bourgade de la Trinité et Simon Wiesenthal de Saint-Vallier. Rapidement, on l'a déjà évoqué, les différentes façons d'introduire des produits bio en restauration collective. Je vais vous laisser lire rapidement la différence entre la façon d'introduire par ligne de produits ou par repas 100% bio. Effectivement, à chacun, il y a des avantages et des inconvénients. Quand même, au niveau d'Agribio, on pense que l'introduction de lignes de produits est vraiment plus structurante pour la filière et vraiment bien avantageuse pour les producteurs bio. Enfin, les atouts et les contraintes de la restauration collective en PACA, les atouts et la dynamique de conversion qui décolle grâce notamment au programme de région, la sensibilisation à l'alimentation de qualité et à la protection de l'environnement, et une volonté politique forte qui s'affirme pour nombreuses communes dans les collectivités territoriales. Enfin, les contraintes, qui sont quand même nombreuses, l'offre encore faible face à une demande qui explose suite au Grenelle et qui implique la plupart du temps des importations, des budgets coûts matières assez faibles en restauration collective et une logistique coûteuse en temps. Et enfin, une pression foncière très forte engendrant la dispersion des producteurs bio du département et qui empêche aussi l'installation de nouveaux producteurs puisque la plupart du temps, ils sont relégués dans le moyen pays, si ce n'est le haut pays. Les perspectives pour l'avenir. Donc, depuis cette année, le programme de région introduit des produits en conversion, ce qui vraiment est très très important pour l'installation de nouveaux producteurs. L'action sur l'offre en aidant à la conversion et à l'installation des agriculteurs bio à travers le programme de région. Et enfin, l'action sur le foncier, ça c'est plutôt les collectivités territoriales qui peuvent s'engager, comme par exemple Montchartou, qui réserve des terres communales pour faire une régie de production de légumes pour sa propre production communale. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Bien, bien, nous allons poursuivre avec Madame Aubert, Madame Aubert, donc de la société Ambre, qui va vous présenter un exemple de distribution, une société qui s'est créée pour. Non, c'est pas sur la chaîne. Est-ce que l'autre micro est réparé?
Bonjour, donc Muriel Aubert, je suis gérante de la société Ambre. Je remercie déjà les organisateurs d'une telle démarche au sein d'un salon sur la restauration. C'est pas toujours évident d'introduire le thème du bio à l'intérieur. Merci donc. Alors, je vais faire bref. Déjà, me présenter. La société donc est une société spécialisée dans la distribution de produits bio pour la restauration. Nous sommes trois associés, dont toi qui est ici présent, Jean Montagard, également la société Arcadie, qui est leader des épices bio depuis 25 ans maintenant. Ce sont les produits Cook que vous pouvez trouver en magasin spécialisé bio. Et moi-même. Donc c'est une société qui est récente, qui a été créée en octobre 2006 avec 4 salariés sur le site. Et 4 VRP qui sillonnent la France, je dirais. La démarche à la base était en fait de combler, à mon sens, un trou qu'il y avait dans la filière, dans la mesure de nos compétences et de nos capacités, et qui partait du constat qu'on était plusieurs donc, associés à être investis depuis plusieurs années dans le bio, soit par le biais de la transformation, soit dans le cadre de la cuisine de chef cuisine bio, et pour ma part au niveau de la transformation, au niveau de l'association des entreprises bio du Languedoc-Roussillon. Et on partait du constat qui était qu'il y allait avoir une demande de plus en plus forte au niveau des collectivités, au niveau de la restauration, qu'il fallait adapter l'offre produit et qu'il fallait également développer une activité qui facilitait l'accès à des produits adaptés pour les collectivités notamment et pour la restauration de manière plus générale. Ce qui nous amène à l'heure actuelle à fournir que du bio uniquement auprès de la restauration, pour une part auprès de la gastronomie et pour une autre part auprès de la restauration collective. Comment ça se traduit? C'est un peu plus de 1500 références, donc 1500, je dirais, produits. Et quand je parle de produits, je prends par exemple l'exemple d'un riz. Je ne vais pas faire les distinctions entre ce qui soit en 5 kg ou en 25 kg. Pour moi, c'est une seule référence, on va dire, pour faire simple. Donc, un peu plus de 1500 produits en conditionnement spécifique pour la restauration et qui sont organisés sur une plateforme donc basée à Méjean-les-Alès avec un stockage, comme je l'ai mentionné, frais, secs, surgelés et ultra frais. Notre objectif n'est pas de fournir, voilà, donc En partant, je dirais, l'objectif était, avec ces 1500 références, de répondre à un marché qui est déjà très divers. On a déjà vu plusieurs exemples entre de la gestion concédée, de la gestion directe, différentes approches, qui a de fortes exigences, notamment des contraintes temporelles, des contraintes qualitatives très fortes, c'est-à-dire que on a besoin de tel grammage et de pas tel autre, de tel délai, il faut prendre en compte si on est en liaison froide ou non ensuite au niveau après la préparation, ce qui implique une sélection de certaines matières. On ne va pas mettre des pâtes complètes ou demi-complètes quand on a une liaison froide derrière parce qu'on va avoir un résultat catastrophique au final. Mais un marché également qui représente des gros potentiels et qui est en forte croissance. Je ne reviendrai pas sur tout le contexte politique, économique dont on a parlé actuellement, sans aborder également l'aspect protection de l'environnement qui est un impératif. Pour ça, il nous semblait indispensable que l'on n'arrive pas avec uniquement trois carottes et deux navets, pour simplifier les choses avec un petit cliché, mais d'avoir une offre la plus complète possible pour que l'établissement puisse faire son repas, s'il veut faire un repas bio, qu'il puisse le faire de A à Z, de l'entrée au dessert. Alors pour cela, on n'arrive pas, comme je commençais à le dire, avec un catalogue qui fait 38, 40, 50 pages, parce que ça nous semblait assez indigeste, et voire avec un aspect un peu répulsif, pour les établissements pour lesquels les chefs, enfin dans les établissements pour lesquels les chefs nous consultent en nous disant je dois faire un repas bio. Alors ça, quand on entend ça, on sait qu'il n'a pas du tout envie de le faire et qu'il va falloir essayer de l'accompagner pour qu'il arrive à faire un peu un challenge, mais que ça passe un peu plus facilement. Alors dans ce cas-là, encore une fois, arriver avec un catalogue, ça va être impossible à gérer. Donc, on a systématiquement, tous les mois ou tous les deux mois, des menus qui évoluent donc en fonction des saisons, qui sont grammés, qui tiennent compte des recommandations nutritionnelles, qui tiennent compte du PNNS, qui permettent aux établissements d'avoir des idées menus chiffrées. Ça leur donne un coût matière. Et à partir de là, en fonction de leur planning de repas qu'ils vont avoir sur les 20 jours, sur le mois ou sur les deux mois, ils vont pouvoir dire, bon ben ce repas, pourquoi pas, je peux m'inspirer de ce repas bio. Par contre, dans ce repas, vous proposez un bœuf bourguignon, j'en ai déjà un conventionnel, est-ce que vous pouvez proposer autre chose? Et on discute comme ça pour faciliter cette introduction de produits bio. On les oriente vers tel ou tel produit, est-ce qu'ils ont une légumerie, enfin bon, tout ça, ça fait partie de l'adaptation de l'offre pour répondre à une demande très, très précise. Donc vous avez là les différentes catégories de produits, fruits et légumes frais, secs et surgelés, tout ce qui est viande de volaille en frais et surgelé, donc ça va être du bœuf, du veau, de l'agneau, ça va être du poulet ou de la dinde, etc. L'épicerie sucrée ou salée avec tout ce qui est farine, céréales, légumineuses, parce que la plupart du temps les établissements découvrent la richesse de l'offre bio, ils ne s'attendent pas du tout à ça, et la richesse en termes de variété et puis de nouveaux produits, des choses toutes simples, du couscous, mais qu'est-ce que vous voulez, du blanc, du demi-complet, du couscous 4 céréales, du couscous. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles ils découvrent et dans lesquelles il y a un accompagnement indispensable à faire. La partie produits laitiers et bof, boulangerie, pâtisserie, en surgelé, en frais et en pré-cuit. Voilà, donc j'ai bien insisté après sur notre activité de stockage, de suivi de commandes, d'accompagnement à la conception des menus, préparation des commandes et ensuite expédition et livraison des établissements. À l'heure actuelle, au niveau du profil de notre clientèle, on va d'un établissement qui va faire 20 repas jour, une crèche qui va faire du bio toute l'année, jusqu'à des cuisines de 300-400, jusqu'à 27 000 repas jour. Donc c'est relativement large comme panel de clients. Voilà notre objectif, développer un dialogue entre les acteurs aussi de la filière, parce qu'on accompagne les transformateurs dans le choix de leurs produits quand ils veulent s'adapter à la demande. Ne pas faire des coupelles de compote de pommes en 110 grammes alors qu'on consomme du 100 grammes, des choses comme ça. Accompagner, je vous en ai parlé, contribuer au développement d'une filière qualitative parce que l'objectif, il est bien là. Et donc, les moyens dont je vous ai parlé. Voilà. Je vous remercie.
très bien, mais je demanderai à M. Federzoni de venir.
Permettez-moi de me présenter, Jean Federzoni, gérant de Naturdis, mais tout d'abord agriculteur. Parce que Naturdis, c'est la finalité de l'agriculture. Je suis agriculteur depuis 1959 au plan Muras, donc par le même ici, et je fais de la culture biologique depuis 1970. Pourquoi ce changement, pourquoi cette radicalisation, surtout en 1970? À l'époque c'était les 60 plus tard, c'est pas péjoratif, hein. Les 60 plus tard et le retour à la terre, en fait tout simplement parce que je me suis empoisonné avec des pesticides et j'ai remis la totalité de mon exploitation en culture biologique à cette époque là c'est tout simple. Donc Naturdis s'est créé en 1984 parce que mes deux fils sont revenus avec moi dans, j'en ai un qui est dans la salle ici. Mes deux fils sont venus nous épauler et nous avons créé la structure Naturdis. Naturdis, c'est donc le distributeur. La finalité, le GAEC produit et vend à Naturdis qui distribue. Alors, encore un point, c'est que non seulement nous sommes agriculteurs d'origine, mais nous sommes devenus distributeurs, mais nous tenons à rester agriculteurs. La preuve, c'est que nous venons de racheter une propriété de 47 000 mètres à deux pas de chez nous pour augmenter notre surface de production et nous avons actuellement en production 8 hectares et demi, 85 000 mètres donc de production en culture maraîchère. Donc c'est une volonté chez nous de rester agriculteur. Alors Naturdis, oui, je me suis préparé mon document parce que me connaissant, j'avais peur de...
Vous voulez que je fasse la diapo ?
Monsieur Felter se lève rapidement pour me dire si vous avez dépassé. Alors Naturdis se trouve juste à l'entrée de la propriété, donc la vente et la distribution se font, c'est à ce moment-là que le téléphone sonne. Excusez-moi. C'est pas prévu. Donc Naturdis se trouve à l'entrée de l'exploitation et nous avons donc 40 salariés et dont 10 sont dédiés à la collectivité, comme vous le voyez. Nous avons des entrepôts à tri-température. Qui couvre une surface de 2700 mètres. Et nous sommes en location également sur 600 mètres carrés parce que nous sommes devenus un peu trop à l'étroit. Alors, notre secteur RHD s'est considérablement renforcé, je vous l'ai dit. Notre préoccupation, obtenir des produits les plus proches de l'automobile de distribution, ça c'est récurrent chez nous et c'est depuis le début. Nous n'avons pas attendu qu'il y ait ce phénomène de proximité. Nous le pratiquons depuis longtemps. Encore que je voudrais, si vous permettez, vous avez cité la proximité et les pays étrangers. Nous sommes, nous, sur la frontière italienne. Et bien souvent, nous avons des produits d'Italie qui sont plus proches que des produits qui viennent de Provence. Alors, le phénomène de France, pour nous, c'est un peu spécial. Je tiens à le préciser parce qu'il nous arrive d'avoir de la marchandise d'Italie et nous sommes bien contents de l'avoir. parce qu'en plus, la marchandise est très bonne. De toute façon, nous avons déjà établi des accords de partenariat avec bon nombre de producteurs et de groupements de producteurs. Monsieur Markovitch l'a dit, nous sommes en relation à un partenariat avec Agribio 06 et 83, mais nous avons accentué notre partenariat avec des régions comme des producteurs comme Nantes. Il s'agit toujours de producteurs importants ou des groupements de producteurs. Nous sommes à Nantes, nous sommes dans le sud-est, notamment dans la région de Nîmes, avec un très gros producteur avec lequel nous avons là signé des accords. Nous sommes dans la région du sud-ouest également, et dans la région de Nantes, où nous avons un très très gros producteur de fruits qui est en partenariat complet avec nous, donc c'est très important. Nous avons une plateforme à Paris pour éviter justement des transports et des coûts exorbitants. Notre plateforme de Paris couvre tout le nord et la région, elle s'en jusqu'à la région lyonnaise. Et nous sommes actuellement en discussion avec des producteurs et des groupements producteurs dans la région lyonnaise et l'est de la France. Nous sommes à même de fournir des menus qui tiennent compte des produits de saison et en provenance de chaque région, je vous l'ai dit, qui est concernée. Étant généraliste, nous avons la possibilité de fournir le repas complet de A jusqu'à Z. Notre stockage, notre gamme de produits est importante. Nous avons en stock 10 000 produits, tout ce qui se mange pratiquement. Pour la RDH, la gamme est effectivement restreinte pour le moment, mais nous pouvons l'augmenter selon la demande. Nous en avons la capacité. Alors, les produits les plus consommés à RHD, voilà, vous les avez là. Les fruits et légumes, les produits frais, les produits secs. Alors, d'une année sur l'autre, vous voyez les changements. Les produits secs ont baissé. C'est surtout les produits, les fruits et légumes qui les ont remplacés. C'est très net. Là, les autogérés, les concédés, mais le résultat est le même. Il y a une chute des produits secs. Alors, le restauration collective, voilà, donc vous avez les autogérés ici, et les groupes, les concédés qui sont là-bas. L'augmentation en ce qui nous concerne est importante, puisque ces messieurs ont bien voulu la gentillesse de le dire. Nous sommes référencés pour la France entière par le groupe Sodexo, Sogeres, Score, Compass, Dupont, pratiquement tous les grands groupes qui sont installés. Nous sommes référencés pour la totalité de la France. Alors, il est évident que nous devons faire face à des exigences de fiabilité, de sérieux, de meilleurs coûts, de provenance locale, exigences bien compréhensibles, mais qui sont des challenges journaliers et que les collaborateurs de la Turdis s'emploient à résoudre dans les meilleures conditions. Ce n'est pas toujours facile, croyez-moi, d'être dans les temps et dans les heures avec la livraison de la marchandise. C'est un challenge, je vous répète, régulier, journalier. Alors, une simple anecdote, si vous permettez, parce que M. Lombardo, le maire de Roquefort, du Rouen, excusez-moi, a bien voulu nous citer. Et moi, je voudrais simplement dire une anecdote. Ça m'a frappé. Pourquoi ? Parce que nous avons eu l'occasion de faire, il y a quelques années, au tout début, une animation, je ne sais pas si vous vous souvenez, et nous avions fait un goûter pour les gosses. Et les gosses devaient amener leurs parents. Et j'ai le souvenir d'un gamin qui tirait ses parents, il est tiré, pas l'autre mot, il venait pour faire plaisir à leur fils. Viens goûter ce que nous mangeons, tu vas voir si c'est bon. Et ça m'a fait plaisir. C'est tout. Merci.
Je vais faire écouter le programme de monsieur le ministre. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire les chiffres qui sont décrits au-dessus des colonnes, donc il y a bien une explosion en autogéré, puisqu'on passe d'une année sur l'autre de 54 points livrés à 123 points livrés, tandis qu'en concédé, donc on passe de 130 à 180. Il y a une forte progression, mais pas aussi importante. Bien, maintenant, je vais donner la parole pour la structuration des filières au moment à M. Cyril Bertrand qui va nous présenter sans diaporama puisqu'il remplace au pied levé Lazare Héroux qui est coincé lui par la grippe d'un de ses salariés qu'il remplace.
Bonjour à chacun d'entre vous. Donc, je suis Cyril Bertrand, directeur du CRIT agroalimentaire. Caroline, tout à l'heure, vous a fait la présentation sur les aspects nutritionnels. Je vais donc vous présenter la démarche d'un des adhérents du CRIT, la société Lazare Héroux, qui est une structure qui fait de l'abattage, de la découpe et de la distribution de viande sur la région. C'est un gros opérateur et qui a une démarche, une éthique très forte et pour développer des produits de qualité et de terroir. Avec le mot terroir, l'entreprise à Lazare Héroux englobe la dimension d'approche locale. Et au niveau du bio, donc, ils ont mis en place un projet depuis 2003 de développer la filière production animale bio dans la région. Alors, comment ceux-ci sont-ils pris par un partenariat étroit avec les producteurs. On en a parlé plusieurs fois, mais là, le partenariat, c'est un engagement de chacune des parties. L'engagement de Lazare Héroux, ça a été, par exemple, donc déjà de contractualiser, de mettre cela par écrit, mais surtout aussi, par exemple, de garantir le prix bio alors que les producteurs étaient encore en conventionnel. C'est-à-dire que la partie délicate de la conversion, les 3 ans ou les 2 ans, selon les cultures, de conversion était sécurisée par l'entreprise à Lazare Héroux qui garantissait le même prix que les produits bio, ce qui est une démarche importante et relativement rare. Alors excusez-moi, j'ai pris quelques notes parce que comme l'a dit M. Fetter, je fais un remplacement pied levé, donc pour ne rien oublier. Donc le développement de la conséquence, hein, les résultats de cette méthode pour développer l'élevage bio dans la région, ça a été le développement du nombre de producteurs. Donc en 2003, Lazare Héroux avait contractualisé avec un producteur. En 2009, ils étaient déjà 14 producteurs en contrat avec l'entreprise. Et 14 entreprises donc, qui ont été sécurisées, 14 producteurs dont l'activité a été sécurisée via le partenariat avec Lazare Héroux. Un autre point dans le cadre des contrats, alors cette fois une fois que les productions sont en bio, c'est la garantie d'un prix minimum, c'est-à-dire que l'entreprise s'engageait à lisser les à-coups des coûts du marché, en fait, des variations des prix du marché sur la viande. Voilà, et donc un partenariat avec les producteurs locaux, puisque bon, ça a été cité plusieurs fois, mais pour l'entreprise à Lazare Héroux, l'objectif c'était de développer le tissu économique et bio de la région. Alors ceci se fait sur les filières ovines et bovines, avec un projet sur la filière porcine, mais qui a plus de mal à démarrer, qui est en phase de développement. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? Oui, alors un des freins à ce développement sur la région, c'est le manque de céréales. La filière animale est fortement dépendante évidemment de l'approvisionnement en céréales. Donc dans des régions comme en PACA où on fait du blé dur pour les pâtes, c'est relativement délicat de forcer la marche sur le développement de la filière animale. Voilà très rapidement l'expérience d'Alazare Héroux. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter cette entreprise, hein, Lazare Héroux. Vous trouverez leur site internet. Je peux vous transmettre leur téléphone de l'entreprise et même le portable d'Olivier Roux, hein, donc le gérant de l'entreprise, pour ceux qui souhaiteraient les contacter et avoir plus de détails sur leur activité. Deux mots sur l'activité du CRIT, j'en profite, par rapport au bio. Hein, le CRIT développe un accompagnement des entreprises agroalimentaires sur le bio au travers de différents types d'appui. D'abord des accompagnements individuels, on va dans chaque entreprise qui veut développer des gammes bio, les aider à comprendre le milieu du bio, à comprendre le cahier des charges, à les mettre en œuvre. Ensuite, il y a la mise en place d'actions collectives, des journées techniques pour informer les entreprises sur le cahier des charges, comment transformer des produits bio. Un club, c'est un échange d'expérience. Alors ce club se fait au niveau régional et important. Il met en relation des producteurs, des distributeurs, des transformateurs et est à l'origine d'un projet. projet qui est en train d'émerger sur une réflexion sur l'approvisionnement régional des entreprises agroalimentaires en produits bio, puisque c'est un, comme pour tout le monde, hein, c'est un des freins. Donc travailler avec les producteurs, les distributeurs et tous les opérateurs pour voir, alors tout à l'heure j'entendais la société Sodexo dire que par exemple sur leurs ailes de poulet ils avaient des excédents puisqu'ils utilisent des pâtes plutôt les pilons. Voilà, il y a peut-être des partenariats tissés. Et enfin, donc, je voulais finir sur la rédaction d'un guide, guide pour expliquer, enfin, le guide sur la transformation des produits bio. Donc ça va être un guide national sur lequel le Crédit Agroalimentaire PACA est leader et a été à l'initiative. Ce guide sera, on espère, le livre de chevet de toutes les entreprises qui souhaiteront se lancer dans l'aventure du bio. Et ils y trouveront toutes les informations pratiques pour faire de la transformation de produits bio. Ce sera un guide édité par l'ACTIA, l'Association de coordination des techniques industrie alimentaire. Voilà, merci pour votre écoute.
Merci beaucoup, monsieur Bertrand. Bien, nous allons donc conclure avec deux interventions. Donc l'intervention de Jean Montagard et puis celle de madame Bison de l'Agence Bio.
Je vais faire très vite. Depuis plus de 20 ans, je travaille pour la promotion de la bio et pour une alimentation végétarienne. Depuis plus de 20 ans, je dénonce les élevages industriels, une trop grosse consommation de viande, le gaspillage et l'utilisation inconsidérée des engrais chimiques et des pesticides. En 1996, déjà, j'ai réalisé un livre en collaboration avec René Augier, qui était directeur du CROUS, et où nous avions commencé à mettre en place des menus bio et végétariens. La cuisine végétarienne en collectivité et restaurant d'entreprise. Donc, ce livre permettait aux gérants, aux chefs, de trouver des recettes et de pouvoir mettre en place des menus végétariens. C'est très long, 96, il y a bientôt 15 ans, ça n'a pas beaucoup évolué. C'était le premier livre professionnel destiné aux gestionnaires et aux chefs de cuisine désireux de servir des menus végétariens de qualité. Et on va voir que les menus végétariens permettent, c'est pas souvent évoqué, mais de maintenir au 100% des menus bio sans avoir un coût élevé si on introduit dans la semaine un menu végétarien. Et bravo à l'initiative du Rouré de pouvoir de mettre par semaine un menu végétarien. Aujourd'hui, en fait, de nombreuses voix s'élèvent et on commence à réaliser que pour l'environnement, il faut diminuer sa consommation de viande. Pour des raisons de santé, de diététique, la diététique commence à recommander une forte diminution de protéines animales. Le nombre d'allergies augmente avec la progression de consommation de produits laitiers. Combien d'années va-t-il falloir encore pour que la restauration collective accepte de mettre sur une semaine deux menus végétariens? J'ai lu le dernier livre de Fabrice Nicolino, Bidoche, que je vous invite à lire, aux éditions LL. Alors, je ne voudrais pas être parano, mais tout de même, quand je lis sur le programme du PNNS, Programme National Nutrition Santé, rappel des 9 repères de consommation, lait et produits laitiers, 3 par jour. Viande, des volailles, produits de la pêche et œufs, 1 à 2 fois par jour. Pas une seule fois, il sera préconisé d'alterner des menus carnés avec des menus végétariens. Heureusement, 3 associations pour lesquelles auxquelles je collabore et je participe, la Fondation Nicolas Hulot, dans la rédaction du guide de la restauration collective responsable, propose une alternative au menu carné. Alors c'est tout nouveau, c'est un document assez exceptionnel qui a été fait en collaboration avec les CIVAM, et que je vous invite à découvrir et à connaître. L'association Slow Food travaille également dans cet esprit et le WWF a lancé une vaste opération, signé la pétition en faveur des cantines biologiques. Et les établissements qui s'y tiendront instaureront une scission avec les établissements classiques qui servent des repas trop riches en protéines animales. C'est en équipe que les changements peuvent s'opérer. Il faut que les acteurs, intendants, chefs de cuisine, directeurs de restaurants, cuisiniers, diététiciens et serveurs soient sensibilisés et comprennent l'enjeu de ces changements. Alors, je milite et je collabore avec ces associations et je fais à l'heure actuelle des formations. Là, vous allez avoir des passages de plats. De plats chauds, de plats centrales pour des menus végétariens. Donc j'ai un livre à l'heure actuelle en préparation aux éditions de la Martinière. Il y a 5 ans, j'ai développé avec M. Kimmel la maison Cook, les épices Cook que vous connaissez en magasin diététique, une gamme pour les professionnels. Car beaucoup de chefs me demandaient où trouver des produits bio et pour des menus végétariens, certains produits, épiceries et autres, et légumineuses. J'ai affaire aux convictions. Pour avoir une diminution de maladies de société, cela passe par un changement alimentaire. Il faut diminuer nos consommations de protéines animales. De nombreux chercheurs, médecins, diététiciens partagent cette analyse. Alors je vous invite à lire un ouvrage qui a fait peu de cas quand il est sorti en France. En 2008, c'est la plus vaste étude internationale à ce jour sur la nutrition, le rapport Campbell, qui est édifiant sur les problèmes que peuvent provoquer une surconsommation de protéines animales, et c'est ce que nous avons dans notre alimentation. Je vais continuer à essayer de convaincre pour qu'un changement dans nos habitudes alimentaires se réalise. Je suis assez têtu et je continue. C'est pour améliorer nos santé, pour l'avenir de notre planète. À l'heure actuelle, le transport planétaire, voitures, bateaux et avions, provoque 12% des gaz à effet de serre. La consommation de viande provoque 14% des gaz à effet de serre et se gave de viande l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie. Le commerce planétaire industriel de la viande affame une partie de la planète, ruine nos écosystèmes et aggrave nos maladies de société. À consommer de la viande, il est certain qu'il faut consommer une viande bio. La restauration collective doit se réveiller et ne plus subir, pour certaines restaurations de collectivité, des préparations culinaires industrielles qui ne correspondent absolument pas à un cahier des charges que souhaitent de nombreux parents ou consommateurs. J'ai fait de nombreuses expériences dans des entreprises à Sofia Antipolis où, par les menus que j'introduisais de menus végétariens, où les préparations étaient à partir de légumes frais, une découverte totale et ça changeait même au niveau des textures et au niveau des goûts et tout le public, les clients étaient toujours très satisfaits. Le gros inconvénient c'est que évidemment c'est une cuisine qui implique beaucoup plus de personnel. Il faut plus de monde en cuisine et comme on est plutôt à vouloir toujours réduire le personnel, ça ne va pas. Des produits bio, des produits de l'agriculture durable, des produits de saison, des produits de proximité. Chez les consommateurs responsables, une petite révolution commence à s'opérer avec la propagation des AMAP. Chez les agriculteurs, des prises de conscience se matérialisent avec Terre de Liens, le réseau agriculture durable, le concept éco-région, à Nice, préservation des terres fertiles avec Alliance Provence. Je souhaite et j'espère que dans la restauration collective, il puisse y avoir ce changement avec des approvisionnements différents et de nouvelles pratiques culinaires. Merci beaucoup.
Alors, en attendant que ça démarre, pour ne pas perdre de temps, je présente rapidement la structure à laquelle j'appartiens. C'est l'Agence Bio, Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, qui a été créée en 2001 par le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Écologie et les principaux acteurs de la bio en France, que sont la FNAB, représentant les agriculteurs bio de France, le CINABio, représentant les transformateurs et distributeurs, COP de France et les chambres d'agriculture. Voilà, donc nous avons plusieurs missions à notre actif. Rapidement, je vous présente un petit peu l'état de la bio en France aujourd'hui. Les chiffres officiels de l'année 2009 seront présentés jeudi. Je ne peux pas en vous dévoiler aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a un fort décollage du nombre de conversions bio en 2009, puisqu'on a à peu près 3 000 nouveaux exploitations agricoles converties Donc on est autour de 15 000 exploitations agricoles bio en France aujourd'hui. Ça représente plus de 600 000 hectares certifiés, ça fait peu. Au niveau de la superficie agricole totale, c'est 2%, mais c'est en augmentation notable. Et ça représente également 6 000 préparateurs et 2 000 distributeurs de produits biologiques. Donc les objectifs de développement vous ont été présentés largement cet après-midi. 6% de surface en agriculture biologique en 2012, 20% en 2020. C'est ambitieux. Et pour atteindre cet objectif, 20% d'achats de produits biologiques dans la restauration collective publique d'État. Il faut savoir que pour l'instant, cette obligation ne vaut que pour le secteur dépendant de l'État, mais c'est une incitation à toute la restauration que proposer des produits bio en France. Les missions de l'Agence Bio, dont je vous disais, sont multiples. C'est d'informer sur la réglementation et d'accompagner le développement du secteur. Je parle là de la restauration collective, puisque notre mission, bien sûr, est beaucoup plus large. Donc pour cela, nous avons édité en ligne sur notre site un guide d'introduction des produits bio en restauration collective. Il y en a d'autres, la suite des CIVAM qui vous a été présentée tout à l'heure. Et il y a également la FNAP qui en a édité, le CINAVIO, etc., pour ses adhérents, avec à chaque fois une approche spécifique producteur, transformateur, distributeur, et aussi gestionnaire, bien évidemment, de ces produits biologiques, puisqu'il y a des spécificités du secteur qu'il faut prendre en compte. C'est également d'évaluer le marché, de mettre à disposition les informations disponibles pour aider à la structuration des filières. On a bien vu, il y a des maillons manquants dans la filière, la production est là, mais en faible quantité encore pour ce secteur, mais il faut également des plateformes de distribution pour approvisionner des distributeurs, il n'y en a pas encore assez en France. Donc pour ça, on a lancé l'année dernière un observatoire national de la bio en restauration collective, qui va être actualisé tous les ans pour connaître l'état d'introduction des produits bio et les perspectives horizon 2012, pour que tout le monde puisse se préparer à l'offre et à la demande. Le fonds Avenir Bio, pour ceux qui seraient intéressés, c'est un fonds qui a été mis en place également l'année dernière à l'agence, 3 millions d'euros par an pour structurer les filières. Donc nous aidons financièrement des projets qui associent les producteurs, les transformateurs, les distributeurs pour développer la bio et atteindre les objectifs fixés. Et ça concerne notamment la restauration collective qui est un débouché qui s'ajoute aux débouchés déjà existants, donc vente directe et vente par intermédiaire de la distribution classique. Et enfin, proposer des supports de communication appropriés. Donc, je vous invite là aussi à aller sur notre site. Vous avez tous ces résultats, www.agencebio.org, dans la rubrique Biomode d'emploi, la bio en restauration collective, guide d'introduction, données de l'observatoire que je vais vous présenter très rapidement, et puis support de communication gratuit, téléchargeable, voilà, à la fois français et ceux faits par l'Union européenne, qui sont également disponibles sur le site de l'Europe, dont vous avez les coordonnées sur notre site. Donc, très rapidement, si je peux me permettre, je vous présente les résultats de ce baromètre Restauration Collective 2009. Donc, les chiffres de la Restauration France, vous les connaissez tous. Hein, 3 milliards de repas servis dans les différents secteurs, enseignement, santé, sociale et travail. Ça représente plus de 72 000 restaurants. La bio dans tout ça, aujourd'hui, enfin au début 2009, c'était 36% d'établissements qui proposaient des produits bio. C'est quand même beaucoup, ça nous a tous étonnés. Sachant que c'est de temps en temps. Donc ça peut être un produit, un pain, des yaourts, etc. Certains vont beaucoup plus loin. C'est le secteur d'enseignement, bien sûr, qui a été pionnier dans ce domaine-là, bien avant le Grenelle environnement. Donc les formules sont multiples. Hein, la moitié propose des ingrédients seulement, d'autres des menus entièrement bio, certains des plats. Et à noter que 5% proposent quand même au moins un produit bio tous les jours. Vous voyez ici l'évolution. Ancienneté donc des restaurants qui proposent aujourd'hui des produits bio, ça a démarré vraiment entre 2004-2005 et c'est vraiment en explosion depuis 2-3 ans. Voilà, donc le marché aujourd'hui est très restreint, c'est 44 millions d'euros pour l'année 2008, ça fait 0,6% des achats alimentaires du secteur, c'est vraiment peu, et c'est 1,7% du marché d'alimentation biologique. Donc vous voyez que c'est vraiment un nouveau marché, un nouveau débouché pour les producteurs et les transformateurs. Voilà. Vous voyez aussi les spécificités du marché bio. C'est vrai que c'est encore beaucoup de produits frais. On a vu que les surgelés se développent. Monsieur Federzini m'a donné l'exemple tout à l'heure. C'est vraiment différent du profil de la restauration classique. On a à peu près un tiers de produits frais, un tiers de surgelés et un tiers d'épicerie. Là, on est majoritairement sur les produits frais. C'est quand même une spécificité de la bio aussi que de proposer ce type de produits. Voilà. Donc, vous voyez ici un petit peu les principaux produits introduits. Pommes, yaourts, carottes, riz, pâtes, poulet. C'est le palmarès de tête. Et le pain également, bien sûr. Alors, objectif 2012, nous on a mesuré l'intention de développement de produits bio dans le secteur de la restauration collective. On aurait 71% de restaurants qui proposeraient des produits bio, c'est énorme. essentiellement pour le scolaire, les établissements publics qui, eux, sont soumis à la circulaire État exemplaire et à la loi Grenelle. Mais ça va bien au-delà de cette cible-là, comme vous le voyez. Donc ça veut dire qu'on sera autour de 4% du marché de la restauration collective en bio d'ici 2012, a priori. Donc on va réactualiser ces chiffres, puisqu'une nouvelle enquête est prévue fin février pour mesurer tout ça. Alors les freins qu'on a identifiés lors de cette étude, et qu'on continuera de mesurer, c'est bien évidemment la difficulté liée au prix des produits bio, la difficulté à trouver des fournisseurs, et on a également la méconnaissance du secteur qui finalement au global est assez importante et qui est un frein aussi qu'il va falloir surmonter. La question du coût, donc on essaie de la creuser, on va la creuser davantage. Il faut quand même constater que 14% des établissements qui ont introduit des produits bio n'ont pas constaté de surcoût, ou ont réussi à l'intégrer sans surcoût au global. 86% malgré tout ont constaté un surcoût qui est en moyenne de 23%, mais ceux qui ont cherché à le réduire ont réussi à le limiter à 16% en moyenne. Et il y a encore des marges de progrès très importantes, puisque donc, ce qu'on préconise dans notre guide, pour résumer un petit peu tout ce qui a été dit, c'est d'abord de privilégier, plutôt que des repas totalement bio, bien que ce soit effectivement l'objectif, plutôt des ingrédients. Régulièrement, ça permet de mieux structurer la filière, les producteurs peuvent se préparer, planifier un petit peu les productions. C'est vrai que ça nécessite des plateformes de stockage et de livraison aussi, puisqu'il faut livrer tous les jours, mais ça se met en place et c'est quand même plus pérenne, et la contractualisation est très importante avec tous les acteurs. Et c'est surtout de choisir des produits qui sont disponibles sur le marché local, régional en priorité. N'allez pas proposer la tomate en hiver et puis des produits qui ne sont pas typiquement produits dans votre bassin de production. Il faut toujours les faire venir de plus loin, mais c'est quand même plus facile. Pour ça, c'est bien se rapprocher des structures locales, les GAB, les CIVAM, les champs pour connaître vraiment l'offre disponible. Les fournisseurs, donc il y a beaucoup de fournisseurs qui offrent aujourd'hui des produits bio qui se structurent, comme je le disais. Si vous le souhaitez, on a un annuaire global de tous les opérateurs bio en France. Il y a plus de 18 000 coordonnées d'acteurs qui sont sur notre site, avec la possibilité de sélectionner ceux qui offrent des produits pour la restauration collective. Et bien sûr, comme je le disais, tous les relais bio régionaux, les chambres qui, elles, peuvent mettre en relation également. Pour limiter les surcoûts, donc on a identifié pas mal de pistes dans notre enquête, et puis c'est des choses que tout le monde sait plus ou moins aujourd'hui, hein, c'est privilégier la régularité, les produits de saison, bien sûr c'est venu en fonction de l'œuvre comme je le disais, introduire les céréales et les légumineuses, comme le disait Jean Montagard, c'est très important, ça nécessite parfois une petite formation parce que les cuisiniers ont parfois oublié ces produits, d'ailleurs on ne connaît pas forcément en France non plus, le boulgour, le camut, toutes ces céréales-là qu'on a en bio. Et puis, prendre en compte la spécificité de certains produits bio, ça a été dit un petit peu en début d'après-midi, on a des taux de matière sèche plus importants en bio, en moyenne, l'AFSA l'a démontré, d'autres études également. Donc ça veut dire, par exemple, pour la viande, beaucoup de cuisiniers nous disent que ça fait moins la cuisson, la viande bio, donc vous pouvez diminuer de 20-30% les grammages de départ pour obtenir la même quantité dans l'assiette. Ça, c'est quand même pas négligeable, ça permet de prendre en partie le surcoût en charge. Voilà, bon, les actions pédagogiques sont bien évidemment essentielles. Là aussi, je vous invite à aller sur notre site et aller voir les outils que proposent aussi les régions et la formation aussi qui se met en place parce que les nutritionnistes, les diététiciens sont de plus en plus formés à l'introduction de la bio. Et ça, c'est important pour assurer un meilleur accueil puisque tous les changements nécessitent une préparation. Voilà, donc une fois de plus, je vous rappelle les coordonnées de notre site pour plus de précision et on est à votre disposition pour toutes questions. Merci beaucoup.
Je remercie Mme Guillain pour cette intervention qui va me permettre de remettre la diapositive concernant les freins à l'écran et de lancer donc les questions à la salle. Et sans faire une obligation de partir là-dessus, mais en fait, disons, ça permet de cadrer donc la discussion. Eh bien, donc, le second micro, je vais confier à Jean. Et nous allons donc vous demander de poser la première question, ce qui est toujours la plus difficile à poser, c'est la première. Et donc, qui, au niveau donc, de cette somme d'intervention, qui a fait un balayage donc, de la situation actuelle de l'offre bio en collectivité, vous voyez que cette offre est en train de décoller de façon spectaculaire, avec beaucoup de personnes qui se mobilisent, et qui font que finalement cet engagement souscrit qui paraissait irréaliste de 20% de cantines
20% de produits bio servis dans la restauration collective peut être réalisé si l'offre se structure principalement par filière. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur un point ou un autre, ou apporter un témoignage, une question? Monsieur Baudin.
Oui.
Monsieur Baudin.
Je vous donne.
Voilà. Merci.
Monsieur Walter, ce n'est pas une question, c'est simplement pour vous dire tout le plaisir que j'ai eu à participer à cette table ronde. Je crois que c'est le 24e salon Agicoter, salon qui ouvre toujours le calendrier des grandes manifestations, voire écolo. Alors, je pose une question. Est-ce qu'il y a 24 ans, on aurait pu tous, dans cette salle, toutes et tous, imaginer qu'on puisse organiser une table ronde sur l'alimentation bio, et en particulier l'alimentation bio dans nos cantines, dans nos collectivités? Je crois que cela démontre bien tout l'intérêt que les uns et les autres, et les élus en particulier, notre collègue, mon collègue Lombardo, qui est un précurseur un peu en tout, puisque je me souviens lors du tri sélectif, je crois qu'il a été un des pionniers aussi, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir que pendant 10 ans, depuis 10 ans, il a organisé dans sa collectivité des repas bio en totalité. Alors, pour les grandes villes, j'ai beaucoup apprécié, donc on a eu un peu l'exemple d'une petite commune, relativement petite, une commune moyenne comme Millau. Et puis, nous, les grandes villes, c'est vrai que nous sommes confrontés, c'est pas un secret, il y a un problème de coût, bien évidemment. Mais il faut savoir que le maire de Nice a voulu que l'on avance très vite là-dessus, et 2012, nous devons avoir 20%, et bien nous l'aurons dès l'année prochaine, puisque on a eu la possibilité de revoir le marché, c'était la période où on renouvelait le marché, donc on en a profité pour mettre 20% de plus, mettre 20% de repas bio. Alors, ce n'est pas suffisant, mais nous continuerons à avancer. Et je crois que ce colloque a permis, cette table ronde, de faire le tour de la production. Je salue tous ceux qui sont intervenus là-dessus, comme jusqu'au bout, c'est-à-dire la consommation. Et je crois que ce qui est encore plus positif, c'est qu'on avait tendance à dire dans les cantines scolaires, ce n'est pas formidable, rappelons-nous la chanson de Pierre Perret, n'est-ce pas? Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'a très bien dit, nos élèves, eh bien, prennent du plaisir, je le sais, puisque j'ai 2 petits-enfants, à manger à la cantine. Et je crois en plus que dans un monde qui n'est pas facile, où les problèmes sociaux s'accentuent parfois, eh bien, à savoir que des enfants puissent manger correctement au moins un repas par jour, et en plus en prenant du plaisir, je crois que c'est une grande satisfaction, et là-dessus, il faut que les uns et les autres nous continuions à progresser. En tout cas, M. Felter, M. Montaga, je vous remercie pour cette initiative remarquable.
Merci beaucoup, M. Baudin. C'est encouragement.
Nous envoie l'association des anciens élèves du lycée de tourisme et d'hôtellerie de Nice.
Oui, je crois qu'il y a également la découverte du nombre de références en bio qui est complètement inconnu du public et qui peut se découvrir dans les magasins spécialisés dans leur distribution pour les particuliers, que ce soit M. Dissagras ou que ce soit par exemple Satoris et Valoris. Monsieur Lombardo, un mot?
Oui, juste un mot, et je rebondis sur ce que dit Bernard. En fait, plaisir du repas, convivialité, ça fait également partie de la démarche bio à la cantine. Et je dirais, il y a un aspect qui n'a pas été couvert cet après-midi, c'est le côté sacré de l'aliment. Il est sûr que tant qu'on travaillait sur de l'aliment jetable, conventionnel, les poubelles étaient remplies. Aujourd'hui, le fait de rendre l'aliment sacré et de le présenter comme quelque chose d'important et de non jetable, eh bien, ça apporte quelque chose de complémentaire et de supplémentaire à l'éducation et à la pédagogie de l'environnement auprès des enfants. Donc je crois que ça, c'est quand même un thème important. Et aujourd'hui, à la sortie de chacun des repas, les plateaux sont contrôlés et l'enfant qui n'a pas été jusqu'au bout de son repas est invité à le faire. Et en même temps, je vous dis, ce côté non jetable, ce côté sacré qui revient, de l'aliment, c'est quelque chose d'important, et on supprime le gaspillage en passant au biologique, ce qui entraîne bien évidemment des économies.
Vous avez tout à fait raison de souligner cet aspect qu'on peut aborder dans des présentations, et qui fait que effectivement l'aliment revient au centre, disons, du comportement, et par rapport à la personne, c'est important. Intervenons au fond.
Bonjour, je vous remercie de vous donner la parole. Je m'appelle Edmond Plavzik, je suis chef de cuisine et j'ai une exploitation agricole depuis 12 ans en agriculture biologique, dans une démarche d'agriculture biologique. Et je voulais aussi donner un certain recul par rapport à l'agriculture biologique, c'est que entre la préhistoire et l'histoire, il y a ce qui fait la frontière entre la préhistoire et l'histoire, c'est l'agriculture. Et ça fait quelques dizaines de milliers d'années que l'être humain cultive sans pesticides. Et on a l'impression d'une réinvention de quelque chose, alors que ça fait quelques décennies seulement qu'on consomme les pratiques agricoles qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui, au niveau de l'agriculture conventionnelle. Et ça paraît anodin, la remarque que je peux faire, mais ça peut donner un certain recul, une certaine humilité aussi par rapport à et un certain devoir. Ça paraît juste un bon sens d'aller vers ça. L'humanité, elle a traversé des millénaires comme ça, et on voit que depuis qu'on pratique ces méthodes agricoles, c'est là que commence un peu tout à être chancelant. Donc c'est pas une invention d'agriculture sans pesticides. Voilà, merci.
Oui, monsieur Vladimir, merci de votre intervention, mais il faut peut-être se placer dans la période contemporaine et voir que le moteur de l'économie contemporaine, c'est l'innovation. Le moteur de l'économie contemporaine, c'est l'innovation. Je prends cet exemple. Ce téléphone portable, qui est relativement récent, qui est un modèle qui est déjà obsolète puisqu'il a plus d'un an, eh bien, je vais être amené à en changer. Et le téléphone portable que je vais acheter aura certainement davantage de pixels, davantage de technologies. C'est pas que est-ce que je serai davantage heureux, davantage par rapport à un confort moral, qui pourrait être le bénéfice santé que m'amènerait cette innovation complémentaire, qui sera dans le prochain que j'achèterai. Est-ce que cette innovation me rendra plus heureux? La réponse est non. Et bien évidemment, et ce portable-là, il n'y a pas besoin de se poser la question de savoir s'il existait il y a 30 ans. Il n'existait pas. Il n'existait pas. Par contre, l'agrochimie qui s'est constituée effectivement principalement il y a une trentaine d'années, elle existe toujours et existera encore dans 30 ans. Et les produits qu'elle produira seront à l'intérieur des cycles économiques que nous vivons et qui font que nous consommons des produits comme les téléphones portables, comme les nouveaux aliments, comme l'ensemble de tout ce qui nous est proposé et nous fait participer à notre développement dans la mesure où nous participons à l'innovation. Ça, je crois que c'est une donne moderne incontournable. Le futur va de plus en plus vite, tourne de plus en plus vite, les innovations tournent de plus en plus vite. Nous ne savons pas vers où, mais si nous n'allons pas vers l'innovation et si nous n'accélérons pas notre cycle d'innovation, nous sommes dans une société qui meurt. Et je crois que le défi qui est posé au bio et qui y répond en ce moment, par rapport à ce que nous voyons en ce moment, le défi qui est posé au bio, c'est de s'inscrire également dans le cycle de l'innovation. Voilà pour le point de vue que je voulais exprimer en réponse à celui d'Edmond, qui est de dire il n'y avait pas de pesticides il y a 100 ans, revenons à cet état et nous reviendrons à un état heureux. Non, nous ne pouvons pas, car nous sommes à l'intérieur d'une société postmoderne, et cette société postmoderne fait reposer l'ensemble de nos revenus et notre croissance sur notre capacité à innover. C'est notre capacité à innover des modèles nouveaux qui fera que nous consommerons davantage de bio. Nous consommerons davantage de bio comme des nouveaux produits. Et c'est la capacité des producteurs, des transformateurs et des distributeurs à les proposer comme des nouveaux produits, une nouvelle offre, ce que j'ai entendu dire là, par rapport aux cantines scolaires, qui fera que le succès de cette agriculture l'emportera sur l'agriculture issue de l'agrochimie. La question suivante.
Christian, il y a quelqu'un.
Bonjour.
Oui, bon.
C'était déjà dimanche. Je me présente, je suis Alejandro Chavarro de l'Hôtellerie de Biarritz. J'ai pu profiter dimanche dernier de la conférence qu'il y a eu ici même. Et puis aujourd'hui, donc, je complète, disons, ces enseignements sur le bio. Je voulais juste intervenir sur deux points. Le premier, ce serait d'accompagner le monsieur chef cuisinier et exploitant sur son rapport au bon sens. Il me semble qu'à la base de ce que nous sommes en train de regarder ici, certes, il faut qu'on regarde énormément la partie financière, puisque nous sommes à la base dans des entreprises qui vont donner des prestations à d'autres personnes. Mais la question du bon sens est dans la mesure où, certes, nous évoluons, on nous oblige, on nous enseigne à faire des prévisions, on nous enseigne à essayer de trouver des moyens pour être rentable, pour accroître notre production, être à chaque fois plus rentable. Mais il me semble que cet objectif d'innovation, certes, ou de prévision dans le plan financier, ne doit pas oublier ou arrêter de tenir compte de ce bon sens. Et ce bon sens qui était vrai il y a 70 ans, qui était vrai il y a 80 ans, qui était vrai même il y a 50 ans, est peut-être pas faux et peut-être pas mauvais, comment on pourrait l'entendre aujourd'hui. Le fait, disons, les techniques anciennes qui peut-être, certes, n'étaient pas très scientifiques, ne peuvent pas être, disons, caractérisées comme mauvaises et comme un mauvais exemple dans lequel il faudrait s'éloigner. Je pense que c'est un exemple très flagrant que pendant des années et des siècles même, nous sommes arrivés à survivre et à, disons, à évoluer jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est assez dommage, voire assez inquiétant, de s'éloigner de cette partie de bon sens. Parce que le bon sens, avec l'innovation, avec la technologie, certes, il y arrivera à un moment donné à se perdre, et c'est où nous allons aujourd'hui. À innover tellement, à nous immerger tellement dans la science et dans la technologie, qu'on va se perdre. Et on va se perdre tellement qu'on ne pourra même pas manger naturellement. Ça, c'est le premier point que je voulais faire référence. Et le deuxième point, malheureusement, le représentant du maire vient de juste de partir. Il y a un constat assez intéressant qui est celui de la population jeune, dont je représente une certaine partie. Ici, parmi mes collègues qui sont au lycée hôtelier, j'ai remarqué quelque chose de très flagrant. Et le fait que cette motivation pour consommer bio, cette idée de vouloir, disons, faire le pas pour consommer bio, est très difficile si déjà il n'y a pas une réflexion à la base. Et cette réflexion à la base peut être une partie d'ordre financier. Aujourd'hui, nous profitons, quelques-uns d'entre nous, de bourses d'études, d'aide à l'éducation, d'aide au logement. Et ça serait peut-être intéressant d'avoir ce coup de pouce pour nous étudiants qui aujourd'hui, c'est pas vraiment facile d'avoir une vie, disons, au jour le jour, financièrement aisée, de nous aider à, disons, à faire ce pas. Parce que bon, malheureusement, on ne peut pas avoir à s'approvisionner avec des grossistes qui, disons, pourraient nous donner des prix un peu plus intéressants. Donc, si cette idée de partir d'une consommation bio vient de nous, vient de nous-mêmes, vient de nos maisons, devait venir de comment nous mangeons à la maison pour pouvoir le transmettre et arriver à le faire, disons, au lycée hôtelier même. Chose qui se faisait avant, malheureusement, on n'arrive pas bien à le faire aujourd'hui. Mais je pense que ce coup de pouce, et malheureusement, le représentant du maire n'est pas ici, pourrait être fait comme s'il se fait dans la santé, par exemple, le plan qu'ils ont sur la santé pour nous aider à payer les mutuelles de santé pour la mutuelle étudiante. C'est quelque chose de très intéressant et que même santé devrait aller de pair avec alimentation.
Très bien, ce sera transmis, mais disons que ça vous permettrait effectivement de découvrir l'innovation qui est d'ores et déjà présente dans le secteur bio.
Merci. Je voudrais revenir rapidement sur les aspects traditionnels bon sens. Je suis à 200% d'accord avec vous. Il faut que le bon sens revienne, si effectivement il a été perdu, mais dans l'agriculture. Et je voudrais pas qu'on reste sur l'idée que l'agriculture bio d'aujourd'hui, c'est l'agriculture d'il y a 300 ans. Non, l'agriculture bio actuellement est une agriculture extrêmement technique, avec beaucoup de bon sens, mais reste une agriculture qui est au niveau. Alors, les agriculteurs, M. Federzoni, je pense, ne contrediront pas. Les producteurs bio sont, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de producteurs conventionnels dans la salle, mais sont beaucoup plus pointus au niveau technique qu'un producteur conventionnel. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent bien comprendre les mécanismes du vivant. Parce qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur de la chimie pour résoudre un problème de ravageur ou de maladie. Ils doivent bien comprendre les mécanismes du vivant. Donc, c'est, c'est pas la même approche. C'est-à-dire qu'il y a de commun entre l'agriculture d'aujourd'hui, bio d'aujourd'hui, et l'agriculture il y a 300 ans, le fait qu'il n'y ait pas de pesticides. Et c'est la seule chose qui est commune entre ces deux agricultures, je pense. L'agriculture bio d'aujourd'hui, et si elle veut se développer, doit être très performante, et on doit mieux connaître les mécanismes du vivant pour, par le bon sens, effectivement, les utiliser au mieux et intégrer au mieux l'homme dans la nature. C'est, je pense, aussi la démarche du bio.
Merci. Bon, moi, j'ai une question de médecin. Je suis néophyte dans le domaine de l'agriculture, mais on a vu qu'on a des médecins et des scientifiques qui sont quand même convaincus que le bio, c'est très important pour les enfants, les jeunes femmes, et les adultes aussi. On a vu qu'il y a des distributeurs, qu'il y a des consommateurs, qu'il y a des maires qui s'impliquent. Mais j'ai l'impression qu'il manque quand même un maillon, parce que concrètement, ce sont les agriculteurs, parce que ils sont 2% à l'heure actuelle. On a 2% des terres bio en France. On a un objectif de le tripler en 2012 et d'arriver à 20% en 2020. Alors, moi, je serais vraiment très, très heureuse qu'on y arrive. Monsieur Baudin est déjà parti, parce que je pense que ça, rien ne pourra se faire sans les politiques, même s'ils sont poussés par l'opinion publique. Et donc ça, je crois que ce mouvement d'opinion est là. Mais comment est-ce qu'on va faire pour arriver à 20% des terres bio d'ici 2020? Est-ce que, techniquement, on a une espérance de l'approcher?
Bien, disons, l'espérance va se jouer cette année, puis il y aura les états généraux de l'alimentation qui vont cadrer ça pour une nouvelle loi d'orientation. Et ça sera donc le rapport de force entre la représentation politique, qui doit être de 4 ou 5 membres au niveau du Conseil national de l'alimentation, qui va organiser ces états généraux, et l'agriculture conventionnelle et l'agro-industrie en général. Donc, la dispersion des propositions alternatives qui est en train de se produire sous vos yeux, puisque là, tout le monde y va de sa chanson, et là, bien évidemment, on va avoir tous les opérateurs du développement durable, qui sont des opérateurs médiatiques de ce développement, vont intervenir et monter au créneau pour avoir leur minute d'antenne. Donc je crois qu'il faut bien voir quels sont les phénomènes de fond qui nous amèneront à consommer bio ou à ne pas consommer bio. Le fait de réduire la part de pesticides d'intrants chimiques dans l'agriculture, ça n'est pas du tout joué. Ça n'est pas du tout joué. Pourquoi? Parce que ça fait partie du modèle économique dans lequel nous sommes et qui produit de l'innovation, qui va produire de l'innovation, qui va mettre de l'innovation en rayon. Et souvenez-vous, puisque je crois qu'on a une classe de BTS ici qui assiste à cette conférence, que la recherche et le développement, c'est un département du marketing. C'est le principal département du marketing. Le principal département du marketing. Si vous voulez de la bio à hauteur de remplacement de l'agriculture conventionnelle, il faut un marketing du bio. Et ce marketing du bio, il passe par une R&D très costaud sur ce secteur. Or, M. Bertrand ne me contredira pas. Je crois que si on fait la part du budget R&D bio au plan régional par rapport à la R&D bio sur l'agroalimentaire conventionnel, on est peut-être dans un rapport de 1 à 100. Disons-nous. Au moins, on va dire à 50 certainement. Enfin bon, c'est de cet ordre-là. Donc, la bataille s'engage là sur la représentativité. La représentativité, c'est la représentativité en capacité à séduire le consommateur. La capacité à le séduire, c'est à proposer des alternatives durables au niveau de leur communication, au niveau de leur marketing, c'est-à-dire au niveau de leur R&D.
L'agence bio, vous pouvez répondre.
La recherche et le développement fait partie des 5 piliers aussi qui a été retenu par le plan Barnier pour le développement de l'agriculture biologique. Il ne faut pas oublier qu'à côté du Grenelle d'environnement, il y a eu en parallèle un plan de développement de l'agriculture biologique qui a été lancé, et que la recherche en fait partie, également le soutien à la conversion, bien évidemment, et il y a eu des aides supplémentaires de versées depuis l'année dernière, en doublement du crédit d'impôt, des aides au maintien de l'agriculture biologique, parce que jusqu'à présent, il y avait des aides à la conversion qui duraient 3 ans, et en fait, les agriculteurs percevaient 5 ans d'aide pour passer ce cap un peu difficile. Mais maintenant, on a, dans certaines régions, également une aide au maintien. Alors, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais c'est l'occasion de la généraliser.
Merci pour cette précision, Monsieur Prosperi.
Oui, simplement.
Prenez le micro, sinon vous ne serez pas enregistré.
Bon, simplement, je voulais dire qu'il y a un certain nombre de cuisiniers, hein, comme Jean Montagard, qui se sont battus, enfin qui se battent hein, depuis 20 ans, peut-être un peu plus, mais pour la cuisine végétarienne et biologique, et qui était reconnue par la profession. Et on s'aperçoit maintenant que certains chefs, alors je vais peut-être le faire bondir, hein, mais comme Alain Passard, hein, qui est quand même un chef étoilé, 3 étoiles, sa carte, c'est essentiellement bio et végétarien. Donc, je crois qu'il y a une prise de conscience hein, qui existait, hein, parce que, bon, je peux en témoigner, chaque fois qu'il y a eu des conférences sur la cuisine végétarienne faites par des grands chefs étoilés, on demandait la participation de Jean Montagard. Et maintenant, on s'aperçoit que des chefs comme Alain Passard viennent se mettre à la cuisine biologique et à la cuisine végétarienne, hein, puisque sa carte ne présente que ces éléments. Donc, je crois que petit à petit, il y a une prise de conscience. Hein, aussi bien au niveau du bio, alors on ne va pas mélanger bio et végétarien, parce que c'est deux éléments différents, mais pour Jean Montagard, c'est les deux ensemble.
Merci, M. Prosperi. Mais ce qu'il faut, il ne faut effectivement pas mélanger bio et végétarien, il faut mélanger bio et innovation. Il y a trois. Thierry Lothard.
Oui, Thierry Lothard, professeur d'économie de gestion. Je me suis posé trois questions en écoutant ce colloque qui m'a fort intéressé, qui est de haut niveau. C'est la question de l'agriculture raisonnée, qui est quand même peut-être un intermédiaire pour passer de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. La seconde question, c'était, alors que nous sommes dans un colloque sur la restauration collective, c'est la notion de restauration commerciale qui n'a pas le rapport de force comme l'on peut avoir dans les délégations de services publics pour la restauration concédée. Et le troisième point, du point de vue des consommateurs, c'est que l'on s'y perd en termes de labels, en termes d'identification. Et donc, on sent bien cette espèce de vague verte, enfin, toutes les entreprises se peignent en vert, mais c'est quoi et donc, j'ai vu qu'il y a un nouveau label qui est sorti au niveau européen. Enfin, on est perdu, il n'y a plus d'identification. Alors, il y a une demande générale, il n'y a pas une réponse qui est très très claire. Et effectivement, on sent bien qu'il y a un décalage entre, on va dire, les volontés politiques suite au code de l'environnement et les capacités de production. Donc c'est une question qui s'adresse un petit peu à tout le monde, avec s'il peut y avoir quelques éléments de réponse sur ces trois points. Merci.
Le premier point, je vais répondre moi-même, sur l'agriculture raisonnée, c'était justement le cheval de Troie de l'agrochimie. Ça c'est clair, d'ailleurs elle a disparu, parce qu'elle a fait son travail, mais l'agrochimie est toujours présente. Après, si on veut faire un marketing de l'innovation, il faut effectivement qu'il y ait une bannière unique. Donc il est très important que le bio reste le bio, et se présente aux états généraux de l'alimentation, fédérés sous une seule bannière, et non pas sous 36. Sinon, il n'y aura pas de marketing. Il n'y aura pas de marketing de cette ligne d'innovation. On est dans un monde de l'innovation. Nous ne savons pas de quoi notre futur sera fait, ni s'il sera meilleur, mais il sera nouveau. Ça, c'est clair. Alors, Muriel.
Donc, sur le côté label, il y a un logo européen, donc une réglementation européenne maintenant pour l'agriculture biologique. Le logo européen est en train de changer, mais il restera un seul logo européen. Il y a également des logos nationaux qui vont pouvoir s'ajouter à ce logo, mais qui répondent à la même réglementation. Et ensuite, vous avez des logos privés pour des cahiers des charges qui vont au-delà de la réglementation, comme Nature et Progrès et d'autres, Déméter également, bien évidemment. Voilà. Mais il faut pas dire qu'il y a une multiplication des labels, au contraire, on va vers une simplification normalement de la visibilité.
Mais de votre part, même pas au niveau du marché. Au niveau du marché, le marché explose dans les labels.
Là, je parle
dans les initiatives.
Je vous parle de la réglementation européenne et des réglementations nationales et privées qui existent.
Je peux dire encore un
mot. Oui, bien sûr.
Oui, je voudrais dire encore un mot. D'abord, je voudrais dire que l'agriculture bio a commencé il y a 50 ans quand on a poussé à la production, quand on a poussé le productivisme à blanc, c'est-à-dire l'agriculture conventionnelle à blanc pour produire massivement et nourrir les populations. À ce moment-là est née cette démarche divergente de l'agriculture biologique et de ses dérivés alimentaires. Et seulement aujourd'hui, donc pratiquement 60 ans plus tard, on commence à en sentir les effets. Pourquoi ? Parce qu'il y a de jeunes managers agricoles qui se sont mis au boulot. Et c'est vrai que cet agriculteur biologique est à haute et un haut vecteur technologique. Il ne faut pas croire que... Vous avez parlé de fossilisation tout à l'heure à table. Et j'ai pris ce mot. Et je crois qu'il va falloir lutter contre cette idée parce qu'il y a un paramètre essentiel qui s'installe là-dedans. C'est l'éthique. Et si et les populations sont en demande justement de transparence et d'éthique, et si on ne travaille pas sur ce, si il y a un refus de la part des industries biochimiques, enfin chimiques, agrochimiques,
eh bien, si elles sont refusées, elles seront rejetées. Et on en sent déjà les prémices, et je crois qu'il faut véritablement installer ceci dans les esprits, et que le consommateur se saisisse, parce qu'aujourd'hui, l'allègement de l'AB dans le cahier des charges européen, là aussi, il y a une question qui se pose, à qui va profiter le crime? Et je crois que chaque consommateur à sa place, chaque décideur, devra prendre en main la défense du biologique, y compris le producteur, bien entendu. Donc c'est véritablement une démarche sur toute la filière. Gardez à l'esprit cette démarche éthique qui est centrale.
Très bien, la démarche éthique, c'est la démarche du respect de la santé. C'est pour ça que j'avais commencé par le principe de précaution. À partir du moment où la conclusion de la poursuite d'une démarche par des chevaux de Troie qui s'appellent agriculture raisonnée, qui s'appelleront autrement, permettent le maintien et le développement de l'agrochimie, je crois qu'il sera de l'ordre du devoir des citoyens de ce pays d'interpeller la Cour de justice européenne, d'interpeller qui on voudra, mais au niveau d'une interpellation au titre de l'attente légitime du citoyen à une alimentation sûre, eh bien, de mener cette action. Et là, je crois qu'au niveau de ce colloque, on aura eu notre petite contribution à exprimer cette attente.
Moi, je voulais juste revenir et rebondir par rapport aux différentes questions qui ont été posées dernièrement. La première est juste une remarque sur la production agricole bio, où on s'inquiète tous, et à juste titre, à mon sens, de quelle va-t-elle être et comment va-t-elle pouvoir se développer pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par l'État. Et à mon sens, en effet, tout ce qui est contribution, les allègements d'impôts, les choses comme ça, le maintien, tout ce qui contribue à ça, c'est évidemment encourageable et louable. Je voudrais quand même faire juste cette remarque, la remarque suivante, qui est de dire que actuellement, l'agriculture conventionnelle n'est pas l'agriculture qui nous nourrit quand on consomme du non bio. L'agriculture conventionnelle, elle est quand même pour une très forte partie destinée à l'exportation et pas forcément à la consommation alimentaire humaine dans notre pays. On a énormément de produits alimentaires conventionnels qui sont issus de l'importation. Donc le problème est plus un problème de fond, pas de comment va-t-on produire du bio, mais comment va-t-on produire du produit agricole à l'heure actuelle. On est plus dans cette problématique-là et dans la recherche de SAU de manière générale et de bio en plus. Mais on est plus dans cette démarche-là. L'autre démarche, c'est concernant l'agriculture raisonnée, qui va totalement disparaître, du paysage, puisque en fait, elle va devenir très prochainement sous un autre label qui est très pompeur et sur lequel il faut avoir une vigilance tout à fait particulière, qui va s'appeler haute qualité environnementale. Donc, il y a tous les termes pour flatter le consommateur. Pour en avoir discuté avec certains agriculteurs en conventionnel, ils trouvaient presque ça comme étant une injure, parce que ça voulait dire qu'en fait, s'ils n'ont pas le certificat haute qualité environnementale, ils font n'importe quoi à côté. Ce qui n'est pas forcément le cas, et j'aurais plutôt tendance à dire que pour certains, ils sont complètement pieds et mains liés avec certains fournisseurs. Ce qui n'empêche que je mets vraiment en garde sur ce prochain label qui va débarquer, haute qualité environnementale, parce que c'est facile. À utiliser et là la bio aura certainement son mot à dire et à développer une communication pour encore marteler quelles sont les bases de la bio là-dessus.
Vous avez raison, Madame Aubert, c'est des chevaux de Troie, celui-ci s'appelle HQE. Très bien, Madame Hart, non, on en reste là.
J'avais éventuellement une petite remarque, en fait une information complémentaire en fait on va dire, parce que je voudrais pas qu'il y en a qui repartent avec l'idée que manger végétarien, ça peut s'improviser. Effectivement par rapport par rapport à la nutrition, on va dire, l'alimentation végétarienne est tout à fait compatible avec les préoccupations nutritionnelle, mais elle va nécessiter en fait des connaissances pour associer les différentes sources végétales, parce qu'il est clair que les protéines animales sont de meilleure qualité nutritionnelle que les protéines végétales. Effectivement, Attendez, laissez-moi finir. En termes de composition en acides aminés.
Le rapport Campbell, c'est archi pauvre.
Bon, j'ai d'autres sources, notamment le rapport AXA de 2008.
Depuis 1930, que la viande était indispensable à l'organisme et qu'elle était. C'est faux. On arrive avec une association, comme vous dites, céréales légumineuses, à avoir les mêmes.
Tout à fait, mais vous ne m'avez pas laissé finir. Donc voilà. Mais si on prend intrinsèquement, sans association, les qualités des protéines animales sont meilleures par rapport à la composition en acides aminés indispensables que l'homme ne sait pas synthétiser. Mais par contre, effectivement, une alimentation végétarienne sera tout à fait envisageable. Dans la mesure où on va associer les différentes sources d'acides aminés indispensables. Donc, par exemple, le couscous est intéressant parce qu'il associe les céréales et les légumineuses, qui sont chacun des deux déficients en un acide aminé indispensable, mais qui vont se compléter l'un l'autre. Donc voilà, je voulais juste apporter cette petite information pour se dire que l'alimentation végétarienne, ça ne s'improvise pas et qu'il faut juste des petites connaissances pour associer les différents végétaux et arriver à la même qualité. Et que souvent, si on parle des protéines animales, en fait, c'est plus parce que les aliments qui amènent ces mêmes protéines animales amènent aussi d'autres éléments comme les viandes qui apportent des graisses saturées. Et donc, c'est souvent parce que ces aliments sont aussi vecteurs d'autres choses que les protéines animales qui en elles-mêmes ne sont pas si néfastes que ça. On doit équilibrer les différentes sources animales.
Vous avez raison. Il faut avoir le souci d'apporter les acides aminés indispensables quand c'est pas synthétisé. Et en fait, je voudrais prendre, si vous voulez, ça sera enfin, j'en fais la conclusion. Je voudrais prendre l'exemple que je prenais tout à l'heure où j'ai appris, moi, il y a un an et demi, que notre rapport de consommation oméga 6 sur oméga 3 était passé de 3 pour nos grands-parents. Donc, d'accord, nos grands-parents consommaient donc des corps gras. Et dans ces corps gras, il y avait un apport d'oméga 6 oxydant, oméga 3 antioxydant, qui était de 3. Donc, 3 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Ce qu'il faut consommer, bien sûr, c'est des oméga 3. À votre avis, on est à combien aujourd'hui? On est à 40. C'est-à-dire que l'alimentation moderne s'est détériorée jusqu'à nous proposer un rapport de 40. Oméga 6 sur oméga 3. Eh bien, c'est ce que je vous disais également tout à l'heure. Aujourd'hui, si vous téléphonez à Nestlé, si vous téléphonez à Danone, ils ne mettent plus aucun plat cuisiné qui a ce rapport oméga 6 sur oméga 3 si désastreux. Ils ont convenu qu'ils se contiennent dans un rapport de 9. Donc, toutes ces études sur la nutrition et le fait qu'on doit prendre en compte un grand nombre de connaissances, un grand nombre de variétés, un grand nombre de contraintes, ça doit pousser à mon sens, le bio à l'innovation. Et pour pousser le bio à l'innovation, il faut des budgets consacrés à l'innovation. Ça, c'est très important. Actuellement, les budgets ne sont pas dans le bio. Les budgets sont dans les sociétés qui consacrent des budgets, qui prévoient dans le prix des produits une part importante du budget qui va permettre d'en formuler à la connaissance et d'en formuler le renouvellement, d'en formuler l'obsolescence. Exactement comme pour mon téléphone portable tout à l'heure. Les produits bio que nous mangerons dans 5 ans n'existent pas aujourd'hui. Ce sera ma conclusion. Merci pour eux. Merci à tous de vous être déplacés pour contribuer.
Pareil, bravo et bon travail. Vous faites pas que ça?
Non.
Ah d'accord. C'est ça. Hein? Quelques réunions de développement durable,
des intervenants. Je vais pas longtemps, je n'ai pas encore monsieur. J'ai un petit site où je présente mon activité et je vais vous mettre l'adresse. Il y a juste 2 pages. Hein. Un peu comme ça, vous verrez de quoi je dis, ce que je fais. Plaisir de vous revoir.
Merci.
Il y a du boulot. Ah, mais je vous en prie. Je ne sais pas quoi.
cuisine est pitoyable, c'est pour la cuisine.
Vous êtes gentil,
vous avez tout apprécié.
Bonjour,
les dernières
personnes.
Ah oui, vous êtes de quel journal?
Restaurage
Supron
et Restauration 21.
Très heureux de savoir. Ah, bien sûr,
vous aimez bien faire. Voilà, le
soir. Oui, oui. Merci.
Mais on voit que la
si vous avez un mail, vous avez qui a parlé.
Et le monsieur, c'est
Garzoni. C'est Garzoni.